18h-20h, Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier 18-20 de la semaine. Au menu de ce dimanche, 2 heures d'infos avec un riche week-end de sport, le Mans, le Critérium du Dauphiné, les médias avec la nouvelle reine de l'Access, Anne-Elisabeth Lemoine qui présente C'est à vous sur France 5, Ruquier qui balance au micro de Renaud Revel et tout roule, la chronique pas politiquement correcte de Pierre de Villeneuve et des dossiers. La 5G arrive. Et elle provoque le désir et un vent de panique. Après la 4G, la cinquième génération techno pour nos téléphones portables sera dans tous les objets du quotidien. Elle est déjà présente dans certaines villes de Corée, des États-Unis ou d'Angleterre et en France en 2020. Mais Trump a déclaré la guerre au leader mondial du marché des équipements, le chinois Huawei, qui l'accuse de vouloir espionner le monde entier. On en parle avec Arthur Dreyfus, il est président de la Fédération française des télécoms. Alors qu'une Française sur deux est une quinquagénaire, soit 41% de la population, les femmes de plus de 50 ans ne représentent que 18% des personnes qu'on voit à la télé et au cinéma, seulement 6% des rôles sont attribués à des actrices de plus de 50 ans. Et c'est pourquoi la styliste Nathalie Garçon organisera demain lundi un défilé happening. Ça va s'appeler Over 50 et alors, toutes ces mannequins auront plus de 50 ans. Elle ne veut plus d'invisible et elle sera à ce micro. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. N'hésitez pas à réagir à l'actu de ce dimanche 16 juin en publiant votre commentaire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 18h, bonne fin de week-end à tous. Et tout de suite, le journal. Anne-Laure Jumet, Philippe Vandel.
Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Le sacre des rugbymen toulousains, 7 ans après leur dernier titre de champion de France. Ils ont présenté cet après-midi leur trophée au public venu nombreux sur la place du Capitole. D'énormes dégâts en Isère et dans la Drôme. Après les orages survenus hier, les agriculteurs ont subi de lourdes pertes. Et puis, le stress des lycéens et de leurs parents à quelques heures du début du bac. La philo, c'est demain à 8h, sur fond d'appel à la grève des profs surveillant les épreuves.
Europe 1. Les rugbymen toulousains accueillis en héros dans la ville rose.
Après leur victoire hier soir face à Clermont lors de la finale du top 14, ils ont présenté cet après-midi au public le bouclier de Brennus, le trophée symbolisant leur titre de champion de France. Titre qu'ils remportent pour la 20e fois de leur histoire. Il aura fallu 7 ans pour retrouver le chemin du succès. C'était donc l'euphorie place du Capitole où vous étiez Patrick Anselmetti.
Et oui, les joueurs toulousains sont arrivés triomphalement en place du Capitole. Peu après 16h, ils étaient à bord d'un bus impérial et quand ils sont apparus sur la place avec le bouclier de Brennus, les 20 000 supporters présents ont exulté. La plupart des joueurs toulousains n'avaient encore jamais remporté de titre. C'était le cas par exemple pour le pilier Cyril Baye qui a encore du mal à y croire.
Je pense qu'on va mettre un petit peu de temps à réaliser. Mais aujourd'hui ça nous aide à réaliser et on se rend compte que c'est extraordinaire. Quoi. C'est vrai que les anciens joueurs m'en parlaient, on avait tous des étoiles dans les yeux. Et ils nous disaient, vous allez voir les gars, si vous y êtes, vous allez voir les sensations, vous en rappellerez toute votre vie. Et là, ce que je vis aujourd'hui, j'essaie de profiter un maximum.
Romain Tamac remporte lui aussi le titre pour la première fois avec Toulouse. Il perpétue la tradition familiale puisque son père, Émile, a été champion à plusieurs reprises avec le Stade toulousain.
Ça me rend fier de pouvoir soulever le bouclier après mon père. Mais c'est vrai que c'est avant tout une grande fierté pour le club. Et c'est vrai qu'on voit le groupe qu'on a, fait de jeunes et de plus vieux, c'est juste exceptionnel, donc franchement c'est la victoire d'une bande de potes. Ouais.
Les joueurs toulousains sont toujours place du Capitole au moment où je vous parle. Ils risquent de faire encore la fête très tard cette nuit, accompagnés par les chanteurs Big Flo et Oli qui s'apprêtent à sortir un hymne à la gloire des rugbymen.
Merci Patrick. Anselmetti, envoyé spécial à Toulouse pour Europe 1.
Des chutes de grêle, des rafales de vent qui dépassent les 100 km/h.
Les orages ont provoqué hier de nombreux dégâts dans plusieurs départements, la Loire, l'Isère ou encore la Haute-Savoie où une touriste allemande a trouvé la mort, un arbre étant tombé sur son camping-car. Dans la Drôme, l'épisode a été de courte durée mais d'une violence inouïe. Des grêlons, parfois de la taille d'une balle de tennis, ont notamment frappé la ville de Romans-sur-Isère. Et dans le département, les agriculteurs sont particulièrement touchés. Leur ministre de tutelle et élu de la Drôme, Didier Guillaume, est d'ailleurs aller à leur rencontre. Vous avez assisté à leurs échanges, Rémi Pierre.
Oui, parce que ce sont des agriculteurs au bord de la crise de nerfs qui ont accueilli aujourd'hui Didier Guillaume et notamment Patrick Crémieux, un arboriculteur de Saint-Bardoux dans la Drôme des Collines. Encore sous le choc, il a perdu toute sa future récolte d'abricots.
Ah oui, la totalité. Aujourd'hui, tous les fruits sont par terre, les arbres sont défeuillés. On se retrouve avec plus rien. C'est une grosse remise en question, à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse.
Même désespoir à peine contenu chez Johan Gonard à la Roche de Glin. Ses vignes et ses arbres fruitiers ont été dévastés en quelques minutes hier.
Ça a défeuillé complètement les arbres et les vignes, la récolte est aux deux tiers, trois quarts, toutes par terre, et le peu qui reste est invendable. Mais c'est vrai que c'est des orages à répétition depuis 10 ans, je l'ai pris 6 fois, donc ça devient vraiment décourageant de faire ce métier quand même. J'ai peur que ce soit la grêle de trop, ouais.
Car au-delà de cette récolte 2019, eh bien ce sont les suivantes qui pourraient être compromises. Alors le ministre de l'Agriculture lui est venu avec un message clair, l'État est à vos côtés.
Évidemment, l'état de catastrophe naturelle sera décrété par le gouvernement et par le ministère de l'Intérieur, parce qu'on ne voit pas comment ça pourrait être autrement. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas un agriculteur qui mette la clé sous la porte.
Didier Guillaume qui poursuivra demain, en Drôme mais aussi en Isère, sa tournée des exploitations sinistrées.
Rémi Pierre dans la Drôme pour Europe 1. L'état de catastrophe naturelle sera décrété précisément dans les 2 jours, a encore dit le ministre.
Première prise de contact avant 2 semaines de service national universel.
Les 2000 jeunes qui vont tester ce service militaire allégé sont en train d'arriver dans les structures qui vont les accueillir. Âgés de 15-16 ans, ils vont apprendre les gestes utiles en cas d'attentat et de catastrophe naturelle et les valeurs de la République. En uniforme bleu marine, ils participeront tous les matins à une cérémonie de levée du drapeau. Au menu également, un test pour détecter l'illettrisme et un bilan complet de santé. Dans le journal de 19h, nous serons à Morbec dans le Nord qui accueille notamment des jeunes venus de Guyane. La PMA doit être remboursée. Déclaration ce matin de la ministre de la Santé, invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Agnès Buzyn, qui ne s'exprime pas, elle le précise, au nom du gouvernement.
Je dirais qu'à titre personnel, je souhaite le remboursement. Aujourd'hui, nous observons que celles qui ont les moyens vont de toute façon en Belgique. Donc, ce qui bloque aujourd'hui les couples de femmes pour avoir des enfants, ce sont les moyens. Donc, si on veut être logique et leur donner l'accès réellement au fait d'avoir un enfant, il faut leur donner les moyens de le faire. C'est un droit, ce droit à la PMA qui va concerner quelques centaines ou quelques milliers de couples de femmes. Et le don restera anonyme, mais nous souhaitons ouvrir la possibilité aux enfants nés par PMA, avec un tiers donneur, de retrouver à 18 ans l'origine de leur donneur.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn, invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. En bref, à Lyon, un homme aurait menacé d'un couteau un soldat en faction devant l'hôpital militaire des Genettes. Ce dernier a tiré sur l'individu, le blessant à la jambe. L'homme a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Une enquête est ouverte. Cette attaque ne revêtrait pas de caractère terroriste.
À suivre, la reconnaissance des souffrances psychiques liées aux attentats terroristes. Un homme qui s'était suicidé 2 ans après les attentats du Bataclan vient d'être reconnu comme victime.
Il est 18h07, la suite du journal sur Europe 1, Anne-Laure Jumet, Philippe Vandel.
Un homme sorti indemne physiquement des attentats du Bataclan vient de voir son statut de victime être reconnu.
Oui, Guillaume Vallette, âgé de 31 ans, s'était suicidé 2 ans après les attaques du 13 novembre 2015, traumatisé par le drame qu'il avait vécu. « Jamais je n'oublierai le bruit des mitraillettes », avait-il confié à ses parents. Sur la foi d'un rapport médical, les juges d'instruction viennent de reconnaître son statut de victime. Pierre Herbulot.
Oui, et ça pourrait être un grand pas en avant pour toutes les victimes psychologiques des attentats si cette décision de justice est bien validée par la cour d'assises. Le 13 novembre 2015, Guillaume sort peut-être indemne physiquement du Bataclan, mais ce qu'il a vécu le détruit de l'intérieur. À tel point qu'il y a 2 ans, il doit être interné en service psychiatrique. C'est là qu'il se donne la mort. Depuis ce jour, le combat de ses parents a été de faire mieux reconnaître les blessures invisibles, les blessures à l'âme des victimes des attentats, raconte Maître Claire Jostrand-Schmitt, leur avocate.
C'est l'accompagnement des blessés psychiques hein, qui est au cœur du sujet. Accompagnement et puis aussi évaluation de leurs préjudices. À l'heure actuelle, les blessures somatiques sont plutôt bien évaluées. On en est loin s'agissant des blessures psychiques. Donc, le cas de Guillaume illustre à quel point ces blessures peuvent être d'intensité telle qu'elles peuvent conduire au décès de la victime.
Aujourd'hui, la plupart des victimes psychiques du 13 novembre souffriraient toujours de ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. 30 à 40% d'entre eux seraient même en dépression. ce qui fait craindre aux parents de Guillaume qu'il y ait d'autres victimes à retardement, comme leur fils.
Un cas similaire justement lié cette fois à l'attentat de Nice. Le papa du petit Kylian, mort avec sa maman sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016, est décédé il y a quelques jours, mort de chagrin selon ses proches. Son avocate souhaite qu'il soit reconnu comme la 87e victime de cette attaque terroriste. À Hong Kong, la pression de la rue reste très forte. Ils étaient 2 millions selon les organisateurs à défiler aujourd'hui, vêtus de noir, pour réclamer le retrait du projet de loi permettant les extraditions vers la Chine. La chef du gouvernement a présenté des excuses, reconnaissant des lacunes dans le travail de l'exécutif.
Dernière révision avant le bac, et je dis ça aussi pour mon fiston, la philo, c'est demain à 8h.
Pour les 743 594 candidats précisément, c'est le début du marathon. Comment aborde-t-il cette échéance? Marion Jort est allée poser la question à des lycéens rencontrés dans un parc à Paris.
Je suis avec deux de mes amis. On s'est donné rendez-vous parce qu'on n'arrivait pas trop à réviser chez nous, seuls. Il y a vraiment un esprit de plus de travail et puis on peut aussi se poser des questions, parfois sur des notions qui peuvent être un peu floues. Ça aide pas mal d'être en groupe. En plus, on respire, il y a du soleil. On peut en profiter pour prendre des vitamines D, être en forme.
J'ai mes copies de philo de cette année. J'ai des trucs Becherel philo pour essayer de retenir un max d'infos la veille.
Sont la veille d'une épreuve, soit j'ai des acquis, soit j'en ai pas. En ce qui me concerne, les acquis, c'est bon. Bah là, je me vide la tête parce que j'ai pas envie de penser qu'à ça non plus. Donc j'étais en train de faire un peu d'exercice et ça vide bien la tête de faire du sport avant les épreuves.
Une édition 2019 qui se déroule sur fond d'appel à la grève des profs surveillant les copies du bac. Invité du journal de la mi-journée, le directeur général de l'enseignement scolaire se voulait rassurant. On l'entendra dans le journal de 19h.
Et c'était le journal de 18h d'Anne-Laure Jumet. Merci beaucoup Anne-Laure.
Vous êtes bien sur Europe 1, il est 18h11.
La météo, c'est avec vous maintenant Valérie Darmon. À quoi peut-on s'attendre côté météo cette semaine?
Eh bien Philippe, la France devrait retrouver des couleurs estivales un petit peu comme aujourd'hui, avec de la chaleur qui s'apprête à remonter d'Afrique sur tout le pays dès demain. Beau temps donc généralisé, malgré quelques nuances, le ciel qui est un peu voilé par endroits, et quelques orages qui pourraient éclater en montagne dans l'après-midi. Donc de lundi à mercredi, la chaleur qui est planée entière. Mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine sur tout le pays. Les valeurs atteindront 25 à 30 au nord de la Loire et seront supérieures à 30 au sud, avec des pointes à 35. Ce pic de chaleur va ressembler à celui du 1er juin. Les températures seront supérieures aux moyennes de saison de 5 à 8 degrés pendant ces 3 à 4 prochains jours.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports présenté ce soir par Christophe Lamar. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Philippe.
On va commencer avec les 24 heures du Mans. On peut être champion du monde de F1 et champion du monde d'endurance. La preuve.
Oui, avec Fernando Alonso qui remporte les 24 heures du Mans au volant de la Toyota numéro 8. Son équipage, composé de deux autres anciens pilotes de Formule 1, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi, décroche également le titre de champion du monde. Le constructeur japonais était seul en piste dans la catégorie reine des LMP1. Pas de Porsche, ni de Mercedes, ni d'Audi, encore moins de Peugeot. Alors bien sûr, on pourrait citer Corneille. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mais l'histoire ne retiendra qu'une seule chose, Axel May, c'est la victoire de Toyota.
Oui, comme l'an dernier, un doublé Toyota, la marque japonaise, seule écurie équipée d'un moteur hybride, seule écurie d'usine aussi, a presque tranquillement, pourrait-on dire, remporté cette 87e édition des 24 heures du Mans. Mais il y a eu tout de même un peu de suspense, puisque la Toyota numéro 7, qui a fait pratiquement toute la course en tête, a connu une crevaison à une heure de l'arrivée. Du coup, c'est l'autre Toyota, celle de l'ancien pilote de Formule 1, Fernando Alonso, qui s'impose. Alonso qui, au passage, remporte le titre de champion du monde d'endurance. En LMP2, l'autre catégorie réservée au prototype, c'est une Alpine qui, comme l'an dernier, gagne les 24 heures et qui remporte le championnat du monde en plus. Et puis dans la catégorie des voitures de monsieur et madame tout le monde, si j'ose dire, en GT Pro, victoire d'une Ferrari 488 et chez les amateurs d'une Ford GT, le public lui a répondu présent comme d'habitude, plus de 250 000 personnes présentes ce week-end.
Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 sur les 24 heures du Mans.
Oui, qui roule en Ferrari évidemment comme tout le monde. Le foot maintenant, avec la Coupe du Monde féminine, il y a du changement dans l'air au sein de l'équipe de France.
Quel sera le 11 de départ demain soir face au Nigeria? Les journalistes ont tout fait pour le savoir, ils ont même interrogé la sélectionneuse Corinne Diacre à ce sujet. Vous connaissez le jeu du chat et de la souris?
Racontez.
Oui, oui. Eh ben non, ben regardez, vous allez voir ce que ça donne en conférence de presse, Corinne Diacre.
Il y aura quelques changements, maintenant on ne va pas changer toute l'équipe non plus. Comme l'objectif c'est d'aller chercher une troisième victoire, il faut que l'on reste sur la logique qui est la nôtre depuis le début. Donc il y aura, oui, quelques changements, mais maintenant comme l'objectif est, je ne sais pas, 1, 2, 3, vous voulez que je vous dise quoi, 4, 5, 6, je ne sais pas, 11, non je ne vous le dirai pas.
Et voilà, elle ne nous dira pas. On verra bien ça demain soir, Corinne Diacre, avec Julien Froment. France-Nigeria demain soir au Roison Park de Rennes. Coup d'envoi à 21h. Cet après-midi, la Suède a battu la Thaïlande 5-1. Thaïlandaises d'ailleurs qui ont pleuré d'émotion après le but inscrit. Elles ne seront pas fanies sur cette Coupe du Monde. Les Suédoises sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Les Thaïlandais et les Thaïlandaises, elles sont éliminées, bien sûr.
Le foot encore, mes côtés garçons. Voilà la période que l'on aime ou que l'on déteste. Pour ma part, j'adore, mais dont on parle sans arrêt, la saison des transferts.
Mauricio Sarri sera sur le banc de la Juventus de Turin la saison prochaine. Il entraînait Chelsea jusqu'à présent, club avec lequel il vient de remporter la Ligue Europa. Au chapitre des rumeurs, Paul Pogba ouvre la porte à un départ. Le Français s'ennuie à Manchester United et le fait savoir. Il le dit au Guardian, c'est le moment de trouver un nouveau challenge ailleurs. Le Français est annoncé depuis plusieurs semaines au Real Madrid. À suivre, bien sûr, selon la formule consacrée.
En bref, le reste de l'actu sportive.
Le cyclisme Jakob Fuglsang remporte le Critérium du Dauphiné pour la deuxième fois de sa carrière. Le premier Français, Thibaut Pinot, se classe cinquième. La dernière étape est revenue au Néerlandais Dylan Van Baarle de la formation Ineos. Le tennis, avec une première pour Adrian Manarino, le Français s'offre le premier titre de sa carrière sur le circuit. Il s'impose à Hertogenbosch face à l'Australien Jordan Thompson. Je vais me demander, mais Hertogenbosch, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le nom néerlandais de Bois-le-Duc. Mais Hertogenbosch est plus sympa quand même en néerlandais.
Bien sûr.
Voilà. Et puis sinon, l'Italien Matteo Berrettini remporte le tournoi de Stuttgart. Enfin, la MotoGP avec un premier podium. Et ça, c'est important pour le Français Fabio Quartararo, qui termine deuxième du Grand Prix de Catalogne derrière Marc Marquez.
C'était le journal des sports de Christophe Lamarre. À tout à l'heure, Christophe.
Europe 1.
À suivre, elle va nous permettre demain d'interagir comme jamais avec nos objets. La 5G arrive sur la scène internationale et bouscule. Qu'est-ce que ça va changer réellement pour nous et pour le secteur ? Pourquoi l'Union européenne est-elle si inquiète pour la sécurité des concitoyens européens ? On en parle avec le patron de la Fédération française des télécoms, Arthur Dreyfus. Il sera en direct ici dans un instant.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1. Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Philippe Vandel. Et que vous nous écoutiez à la radio, sur l'autoradio, sur un smartphone ou encore sur une tablette, restez bien avec nous.
La 5G arrive après la 4G, c'est la cinquième génération techno pour nos téléphones portables, mais pas seulement. Marlène l'a dit, la 5G sera présente dans tous les objets du quotidien. Elle est déjà ici dans certaines villes de Corée, des États-Unis ou d'Angleterre et en France. On l'annonce pour 2020, sauf que la 5G provoque également un vent de panique au sein des services de sécurité européens. Bonsoir Arthur Dreyfus.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Fédération française des télécoms et au passage secrétaire général d'Altice France SFR, le groupe de Patrick Drahi. Tout d'abord, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que la 5G ? Qu'est-ce que ça va changer pour nous au quotidien ?
La 5G, c'est une nouvelle technologie. On a connu la 3G, la 4G. L'arrivée de la 5G, ça va être des débits 10 fois plus rapides que la 4G, donc nous allons pouvoir télécharger 10 fois plus vite, alors qu'aujourd'hui, on considère qu'on télécharge déjà très vite. Donc ouais. Le réel besoin de la 5G sera un besoin pour les entreprises. Nous allons pouvoir développer un certain nombre de nouveaux usages en termes de télémédecine, en termes de voitures autonomes, dans l'agriculture connectée, dans la logistique. Donc pour les entreprises, pour les territoires, l'arrivée de la 5G va vraiment changer les usages et c'est une nouvelle génération, une nouvelle technologie qui arrive.
Je vais donner un exemple concret. Avec la 4G, 100 000 équipements peuvent être reliés au kilomètre carré. Avec la 5G, on va passer aux millions. C'est-à-dire que beaucoup d'objets seront eux-mêmes reliés, comme certaines voitures de luxe le sont déjà, votre vélo, mais aussi le doudou des petits, le porte-clés. Et alors, également avec la 5G, il sera possible que les objets communiquent entre eux, comme par exemple deux camions sur l'autoroute, c'est ça, qui vont pouvoir se suivre de très très près sans aucun danger.
Absolument. C'est la voiture autonome, c'est effectivement de pouvoir gérer à distance, sans conducteur, du trafic sur les routes et les autoroutes. L'agriculture connectée, c'est pour des agriculteurs gérer la gestion des champs à distance.
C'est-à-dire que votre tracteur, il laboure tout seul.
Exactement. Et avant la voiture connectée, on aura très certainement le tracteur connecté.
Selon les experts, on n'arrive pas à le croire, 20 milliards d'objets pourraient être connectés à terme, trois fois plus que ce qu'il y a d'habitants sur Terre, c'est dans très très longtemps ou ça va être 2020, 2021, 2022 ?
Regardons chacun dans notre maison. Le nombre d'objets connectés aujourd'hui est déjà bien plus important qu'il y a quelques années. Vous avez bien plus d'objets connectés dans la maison que de personnes dans la maison. Et c'est chaque année, ce nombre d'objets augmente et forcément, les besoins des utilisateurs augmentent également.
Quels sont les enjeux économiques ? Quel est le budget mondial ? Quel est le budget français ?
Alors, le premier besoin pour les opérateurs télécoms aujourd'hui de la 5G, c'est d'abord un besoin capacitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le trafic sur les réseaux 4G devient de plus en plus encombré Parce qu'en 2017, on a eu 150% de trafic en plus qu'en 2016. Donc d'abord, c'est pouvoir répondre aux besoins de tout un chacun qui télécharge chaque jour plus que la veille. Donc le premier besoin pour les opérateurs télécoms, c'est un besoin capacitaire. Ensuite, c'est effectivement de pouvoir appréhender les nouveaux usages dont nous venons de parler pour les industries, pour les entreprises, et de pouvoir répondre aux attentes qui sont de plus en plus fortes.
C'est un gros marché pour la France, par exemple. C'est comparable à quoi ? À la téléphonie d'aujourd'hui, où ça va tout va décupler ou être multiplié par 2 ou 3 ou 1,1 ?
C'est un énorme marché et ça demande des investissements extrêmement lourds. Et il faut savoir que les opérateurs télécoms investissent d'ores et déjà 10 milliards d'euros par an dans les infrastructures.
Tous, les quatre ?
Les quatre, on investit près de 10 milliards d'euros dans la fibre, dans la 4G, pour offrir la 4G sur des territoires qui aujourd'hui n'ont pas encore la 4G en France. On parle aujourd'hui de 5G.
Ouais.
Mais il faut savoir qu'on est déjà très engagé pour apporter la 4G dans ce qu'on appelle les zones blanches, des Français qui n'ont pas encore accès à la 4G.
Et on a vu le problème que ça fait, puisque c'était une des revendications et des causes du mouvement des Gilets jaunes, ces déserts numériques. Quand les appels d'offres et les enchères vont-elles démarrer en France ?
Il y aura des appels d'offres...
Parce que normalement, c'était annoncé pour mi-2019, et nous sommes mi-2019, et j'ai rien vu venir.
Maintenant, le calendrier est assez clair, c'est pour le deuxième semestre, et pour une attribution des fréquences tout début 2020.
On va retrouver les quatre mêmes opérateurs qu'on connaît, SFR, Orange, Bouygues et Free, où il y a d'autres entrants qui vont arriver, ou d'autres qui vont se désister parce que l'investissement est trop gros.
Non, c'est gérer des fréquences, gérer la 3G, la 4G et demain la 5G, c'est vraiment un métier des opérateurs. Opérer des réseaux, opérer des fréquences, c'est le métier des opérateurs. Et ensuite, nous, les opérateurs, nous travaillerons avec les industriels de l'automobile, les industriels de la logistique pour...
Vous m'avez pas répondu. Est-ce que les quatre qu'on connaît là, ce seront les quatre pour la 5G ?
Ça, on verra.
On ne sait pas encore.
On verra si les quatre candidateront à cet appel à candidature.
Combien ça va coûter en plus pour nous, les utilisateurs ?
Forcément, toute nouvelle technologie, c'est des investissements. Donc des investissements pour les opérateurs télécoms, des nouveaux usages, des nouveaux services. Donc forcément, tout cela aura un coût pour les consommateurs. Que le consommateur soit un consommateur grand public, comme on dit, donc les auditeurs, ou les entreprises, ou les collectivités, ou les administrations. Donc forcément, toute nouvelle technologie aura un coût supplémentaire. Et nous, on travaille à créer les business models de demain. Aujourd'hui, la 5G n'est pas encore présente en France, mais on a utilisé, nous, les opérateurs télécoms, cette dernière année, pour faire un certain nombre d'expérimentations. Donc, dans un certain nombre de villes françaises, on a travaillé avec des entreprises pour expérimenter ces business models de demain pour être définitivement prêts quand nous aurons les fréquences 5G.
Et alors, en même temps, vous n'allez pas me dire que tout a planté.
Non, c'était comment ? Écoutez, on y travaille, on apprend. Ouais. On apprend avec les entreprises, on apprend avec le régulateur, on apprend avec le gouvernement. Et on s'inspire aussi des modèles étrangers, parce que vous l'avez dit, dans d'autres pays, la 5G arrive d'ores et déjà.
Et je précise qu'il faut un téléphone spécial qui accueille la 5G. Le téléphone que vous avez là maintenant, ça ne pourra pas marcher pour la 5G. Il faudra un nouveau. Alors je l'ai dit, la 5G provoque également un vent de panique. Les États-Unis ont inculpé Huawei, le chinois, pour violation de l'embargo américain sur l'Iran. Pas seulement, ils leur reprochent également d'avoir fait de faire de l'espionnage industriel. En 2012, le Congrès américain a qualifié Huawei de menace à la sécurité nationale. Et Donald Trump a demandé à ce que l'on se passe de ses services sur le territoire américain. Est-ce qu'il a de bonnes raisons d'avoir peur ou est-ce que c'est là, je vais dire, l'expression d'une guerre commerciale qui ne dit pas son nom ?
Vous l'avez dit, on est dans une guerre commerciale.
Ah non, je vous le demande justement. Est-ce qu'il faut avoir peur ou est-ce que c'est du business, as usual, qu'on met sur le compte de la peur pour faire du business ?
Il faut toujours être très précautionneux avec les enjeux de sécurité. Et Huawei est un équipementier présent en France et en Europe depuis plus de 10 ans. Les opérateurs travaillent en France et en Europe d'ores et déjà avec Huawei.
Oui, mais avec une nouvelle technologie qui va arriver, je ne vais pas raconter le détail, mais on pourrait, par exemple, mettre des sortes d'espions qui renverraient en Chine ce qu'ils ont entendu ici. Vous le savez, est-ce que vous-même, vous pensez que cette menace est réelle et est à craindre ou que ce sont là seulement des élucubrations ?
Quelles que soient les nouvelles technologies, nous devons être très prudents sur la sécurité des réseaux. Nous, on travaille quotidiennement. On a 15 000 ingénieurs chaque jour qui travaillent à la sécurité des réseaux, à opérer les réseaux sous le contrôle des pouvoirs publics, sous le contrôle du gouvernement. Le sujet de la sécurité des réseaux n'est pas un sujet nouveau. On l'a eu pour la 3G, on l'a eu pour la 4G, on l'a pour les réseaux fixes. Il faut savoir aujourd'hui que Huawei n'est pas présent dans les cœurs de réseaux, comme nous...
En France.
En France.
Parce que c'est l'État français qui a refusé.
Et les opérateurs qui travaillent avec Huawei les utilisent pour ce qu'on appelle la radio. La sécurité des réseaux, encore une fois, c'est une priorité pour les opérateurs télécoms. Pourquoi ? Parce que la sécurité de nos clients, d'une part, et la sécurité nationale, d'autre part, n'est pas un sujet pris à la légère par les opérateurs télécoms français, d'une part, mais par l'État français également, et c'est bien normal, mais c'est le cas dans l'ensemble des pays européens. Donc nous participons et nous partageons pleinement la préoccupation du gouvernement d'améliorer sans cesse la sécurité des réseaux et d'être très précautionneux. Ce qui nous inquiète en ce moment, c'est effectivement tout ce débat autour de Huawei, pas Huawei, quelles règles pour la sécurité des réseaux demain. Nous, ce que nous voulons, c'est que ça soit clair. Pourquoi ? Parce qu'on fait des investissements extrêmement lourds. Et on fait des investissements pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans. Donc nous, on veut des règles claires dès le départ, qui ne changent pas en cours de route, pour prévoir les investissements. Pourquoi ? Parce qu'on est engagé à déployer massivement nos réseaux sur le territoire national. On est engagé pour la sécurité des réseaux. Et on est engagé pour offrir à nos clients, qui sont vos auditeurs, la meilleure qualité de service et les meilleures innovations.
On est en train de parler de la 5G qui n'existe pas encore en France. Juste pour vous donner une idée, au début du mois, le coréen Samsung vient de lancer une équipe de recherche consacrée à la 6G. Merci beaucoup Arthur Dreyfus. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération française des télécoms. Merci d'avoir parlé ici sans filtre.
Merci beaucoup.
À suivre, un immense paradoxe. En France, une femme sur deux a plus de 50 ans, mais moins de 20% de ces dernières figurent à la télé, et encore moins, c'est 6% au cinéma, et dans la mode, encore moins sur les podiums. Alors Nathalie Garçon, la styliste, organise demain un défilé avec un parterre de personnalités qui affirment haut et fort leur cinquantaine et parfois plus. Marianne James, Lio, Chantal Thomas ou encore Sandrine Bonner, et j'en oublie beaucoup. La styliste nous dévoile les coulisses de ce happening dans un instant.
Dans un petit peu plus d'une minute, il sera 18h30, vous écoutez votre grand journal du soir avec Philippe Vandel.
Et c'est l'heure du rappel des titres avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré dans les deux jours en Auvergne-Rhône-Alpes. Annonce du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, au lendemain des violents orages qui ont touché la région et ravagé les récoltes. Ils sont 2000 jeunes de 15 et 16 ans à tester le service national universel. Durant 10 jours, ils vont apprendre les valeurs de la République, un dispositif testé dans 13 départements. À Lyon, un homme a tenté d'attaquer un militaire au couteau cet après-midi devant l'hôpital des Genettes. Le soldat a dû faire usage de son arme. Le suspect a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Les raisons de son geste ne sont pas connues. Pas de dimension terroriste pour le moment. 2 millions de manifestants à Hong Kong. Selon les organisateurs, une marée humaine a déferlé pour réclamer le retrait du projet de loi sur les extradition vers la Chine. Le texte a été suspendu hier.
Merci beaucoup Sophie, à tout à l'heure pour votre journal complet. Il sera 19h.
Europe 1.
La météo, c'est avec vous maintenant Valérie Darmon. Pas de chance pour les bacheliers. Le temps demain promet d'être estival.
Eh bien l'ensemble du pays va profiter d'un temps bien ensoleillé et surtout plus chaud. Demain matin, de la Bretagne aux Ardennes, des passages nuageux traînent encore ici ou là, ce sera même parfois un petit peu brumeux en Bretagne et en Normandie. Sur le bassin parisien et au nord de la Seine, la journée se poursuivra sous une alternance de nuages et d'éclaircies, exactement comme en ce dimanche de fête des Pères, et le soleil reviendra plus franchement au fil des heures sur la partie ouest du pays. Sur le reste de la France, hormis quelques nappes de nuages bas sur les plages de la Provence-Côte d'Azur, le soleil va dominer. Et en montagne, les nuages vont donner quelques averses fréquentes, localement orageuses aussi, dans l'après-midi. Les températures de ce lundi qui s'envolent littéralement avec des maximales entre 19 à Cherbourg et 33 à Nîmes, avec à Paris 27 degrés et à Lyon 28.
Et comme on est à Paris, merci Valérie Darmon. J'aime bien que les températures s'envolent littéralement. Merci beaucoup Valérie Darmon.
Et maintenant Philippe Vandel, sur Europe 1, on va parler d'invisibles qui font beaucoup de bruit.
Alors qu'une Française sur deux est une quinquagénaire, soit 41% de la population active, les femmes de plus de 50 ans ne représentent que 18% des personnes figurant dans les programmes télé. Et au cinéma, seuls 6% des rôles sont attribués à des actrices de plus de 50 ans. Et je ne parle pas de la mode. À quelques très rares exceptions, il n'y a quasiment aucune femme de plus de 50 ans qui défile sur les podiums. Et pourtant, elles font évidemment partie des acheteuses. Bonsoir Nathalie Garçon.
Bonsoir.
Vous êtes styliste et vous organisez demain, lundi, une sorte de défilé en forme de happening. Racontez.
Bah oui, l'idée, en fait, au départ, c'était de montrer, parce que moi, j'ai toujours travaillé avec des femmes qui m'inspiraient, et je trouve que les femmes inspirantes n'ont pas d'âge. J'ai une vision de la beauté qui est très différente que celle qui est véhiculée dans les médias. Et j'avais envie de le faire, j'avais envie de... Simplement, je ne suis pas dans l'injonction, mais de donner à voir des femmes qui m'inspirent depuis toujours, depuis longtemps. Et je pense que c'est important dans nos métiers de le faire.
Alors, ça va s'appeler Over 50 et alors, ça veut dire plus de 50 et alors, qui va défiler ?
D'abord, il y a des femmes de milieux différents, d'horizons différents. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des actrices, Sandrine Bonner, Sophie Monico, Christine City qui fait la mise en scène. Après, il y a Marianne James qui va défiler. Il y a aussi Chantal Latsou. Enfin, il y a un grand nombre de femmes. J'ai pas la liste.
Moi, j'en ai noté
cœur,
également.
Mais vous en...
La chorégraphe et danseuse Marie-Claude Pietragala, Lio, la chanteuse, la femme d'affaires Aude de Thuin et la publicitaire Mercedes Hera. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous dénoncez l'invisibilité des femmes à partir de 50 ans. Comment ça se manifeste concrètement ?
Moi, je dénonce pas, parce que c'est pas mon métier. Mais réellement, j'ai envie de donner à voir, de donner envie, de montrer qu'effectivement, on perd des choses en vieillissant, parce qu'il faut pas, y a pas, moi, j'ai pas d'angélisme par rapport à ça, mais on en gagne. Et puis surtout, je trouve que pour les jeunes générations qui arrivent après, notamment les femmes de 40 ans et celles de 30 ans, j'ai envie qu'elles n'aient pas peur de vieillir, quoi. Et puis une autre chose aussi, c'est que j'avais envie de montrer des femmes qui ont 50 ans et plus, parce qu'il y a des femmes qui ont même 80 ans qui vont défiler, et qui n'ont pas obligatoirement envie de ressembler à des ados. Voilà.
Alors, elles seront habillées par vous toutes ?
Pas du tout, pas du tout. L'idée, c'était de fédérer, c'est une association... c'est de fédérer des créateurs de mode qui habillent ces femmes. Donc moi, j'en habille quelques-unes, mais la plupart sont habillées par des créateurs.
Qu'est-ce que vous répondez aux femmes de plus de 50 ans qui entrent dans votre boutique ou d'autres boutiques et qui disent « Ah non, ça c'est très très beau, mais je ne peux pas porter ça à mon âge
». Je leur dis que c'est triste parce que la mode devrait être un outil pour s'exprimer. C'est un vrai outil de communication et que ce sont les premières à se censurer. Et je trouve dommage que la mode participe effectivement à cette censure et qu'elle est lourde de conséquences en fait.
Ah oui, vous trouvez que la mode participe à cette censure ? Moi je me rappelle dans les années 80, les créateurs voulaient, et même avant, libérer la femme.
Absolument.
Et
absolument.
Maintenant ?
Maintenant non. Maintenant on est dans une forme de carcan où effectivement, passé une certaine limite, on n'est plus comestible.
Ça change aux États-Unis. On peut voir Jane Fonda qui fait de la pub pour L'Oréal, Jessica Lange pour Max Jacob, Charlotte Rampling pour Nars, je sais pas ce que c'est cette marque, Jacqueline Bisset pour Avon. Pourquoi ça n'existe pas en France ?
Alors, ça commence à exister. Alors, effectivement, il y a quelques grands noms qui sont effectivement très chics, jamais assez chics et jamais assez minces en général. Après, ce qui est compliqué, c'est de montrer une variété de femmes. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de montrer... je pense que plus il y aura de multiplicité de représentations de femmes incarnées, plus le regard des autres changera.
Vous avez raison, je viens de citer Jessica Lange, Charlotte Rampling, Jacqueline Bisset, c'est toutes des bombes.
C'est toutes des bombes.
Et Jane Fonda.
Et Jane Fonda. Par contre, il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle All is a New Black. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Il faut regarder sur Internet.
Racontez, qu'est-ce que c'est Old is the New Black ?
Old is the New Black, c'est un mouvement qui a été lancé par une Française, d'ailleurs, une styliste. Ce sont des photos de couples ou de personnes seules, de plus de 50 ans, mais voire beaucoup plus, et qui ont des looks absolument insensés, qui se mettent en image et qui, justement, expriment cette liberté de style, cette liberté de ton, que l'on peut enfin se permettre à un moment donné quand on a moins de choses à prouver.
Tout le monde était tombé sur l'écrivain Yann Moix quand il avait déclaré dans une interview au journal Marie Claire qu'il ne pouvait pas aimer une femme de 50 ans, c'est-à-dire une femme de son âge, et il disait « Elles sont invisibles pour moi ». Tout le monde s'est offusqué, à commencer par les magazines féminins, sauf que les magazines féminins ne mettent quasiment jamais une femme de plus de 50 ans en couverture, et encore moins dans les sujets mode. Que leur dites-vous, Nathalie Garçon ?
Alors d'abord, moi je dis qu'Yann Moix, je m'en fous un peu de ce qu'il pense. Je pense qu'il traduit ce que beaucoup d'hommes ressentent.
Et mais sur les magazines de mode.
Alors oui, tant qu'il n'y aura pas plus de représentations diverses de femmes de plus de 50 ans, mais vraiment dans leur diversité physique, raciale, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le désir n'évoluera pas.
Merci beaucoup Nathalie Garçon, styliste, je le rappelle. Vous organisez demain lundi un défilé happening over 50. Et alors, je ne vous ai pas demandé où ça se passait ?
Alors, c'est Galerie Vivienne, mais c'est complet parce qu'il y a des mesures de sécurité qui sont strictes.
Donc ça sera en live, je pense, et puis on en fera d'autres. De toute façon, c'est qu'un début.
Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous sur Europe 1.
Merci Philippe.
Europe 1.
À suivre, il est encore question d'âge avec un anniversaire qui fait plaisir sur France 5. C'est à vous, fête ses 10 ans vendredi soir et pas une ride. L'émission cartonne avec celle qui a longtemps attendu son heure. Anne-Elisabeth Lemoine est notre invitée média dans un instant, juste après la chronique de Renaud Revel. On reste dans les médias. Renaud qui a rencontré Laurent Ruquier. Ruquier lui-même très remonté contre une ministre.
18h38, vous écoutez votre grand journal du soir. C'est l'heure maintenant de notre page média, Philippe Vandel.
Bonsoir Anne-Elisabeth Lemoine.
Bonsoir Philippe Vandel.
Vous êtes la présentatrice de C'est à vous sur France 5, où vous avez succédé à Anne-Sophie Lapix il y a deux saisons, qui elle-même succédait à Alessandra Sublet. Et avant de parler de vous, je vais justement parler de l'émission, car elle va fêter ses 10 ans vendredi, le 21 juin. Question simple, qu'avez-vous prévu pour cet anniversaire?
On a prévu de réunir tous ceux qui ont fait de C'est à vous un succès, à commencer par celle qui l'a fondée, qui a créé, qui l'a sortie de terre, Alessandra Sublet, Pierre-Antoine Capton. Ils ont cette idée folle de proposer un talk show présenté par une femme, dites donc, à 19h.
Sur une case qui était sinistrée, à l'époque, il y avait 50 000 personnes qui regardaient. On peut dire combien de personnes regardent maintenant?
En moyenne, 1 200 000, en
la
moyenne.
La plus belle progression de la télé. Donc, il y aura, c'est vous qui allez présenter.
C'est moi qui présente. Il y aura Alessandra Sublet, Anne-Sophie Lapix, et tous ceux qui ont fait de cette émission un succès. C'est Jérémy Michalak, évidemment. On pensera très fort à Emmanuel Maubert, auquel les téléspectateurs étaient extrêmement attachés. Les débriefs de Mathieu Noël, évidemment, mais aussi Nicolas Poincaré.
Ah oui, c'est vrai.
Les belles heures de C'est à vous, mais oui. Il s'en souvient très bien, il est très heureux de venir. Mais aussi Philippe Godin, qui était, en fait, qui était...
Je l'avais oublié, lui.
Ben oui, mais qui a précédé Maxime Switek à ce poste-là. C'était l'ancêtre de Maxime Switek.
Est-ce que vous-même, vous avez un moment le plus fort? Alors tiens, comme téléspectatrice et comme présentatrice.
Comme présentatrice, à l'unanimité, je pense, en tout cas avec l'équipe qui m'entoure depuis 2 ans, c'est quand on a reçu Tom Hanks et Meryl Streep.
C'est pas vrai, pourquoi?
Parce qu'ils étaient d'une générosité, c'est quand même deux stars.
Ouais.
Quand ils sont arrivés dans la cour de C'est à vous, les voisins, parce qu'on habite dans un vrai quartier, dans un vrai immeuble, les voisins avaient descendu les enfants pour qu'ils se fassent bénir par Meryl Streep. Donc c'est vous dire un peu l'importance de la personnalité qui venait. J'ai aimé ce moment parce qu'ils me regardaient un peu comme leur fille. Tout d'un coup, j'étais la fille de Meryl Streep et de Tom Hanks, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Et ils ont été généreux, drôles, intelligents, tout ce qu'on rêve.
Et téléspectatrice, il y a un moment plus qu'un autre?
J'étais téléspectatrice des débriefs de Mathieu Noël, oui.
Ah ouais.
Et j'avoue que des fois, le soir, pour me détendre, je les regarde et
je ris
toute seule comme une bossue dans mon lit.
Sur YouTube?
Ouais.
Il y aura des gags, il y aura du bêtisier, il y aura des moments de tension?
Oui, parce que c'est une émission dans laquelle il y a de l'enjeu. Il y en a de plus en plus, je trouve, parce que plus ça va, plus on fait d'actu. Anne-Sophie Lapix a vraiment marqué ce tournant-là, d'apporter son expertise de journaliste politique. Il y a des moments de tension. On a reçu tous les présidents de la République.
Ouais. Oui, mais ça s'est pas mal passé avec tous.
Il y a eu un moment de tension avec Emmanuel Macron quand tout d'un coup, je lui ai fait remarquer qu'il avait collectionné les unes de Paris Match, lui qui ne voulait pas mettre en avant sa vie privée, qui avait dit que Brigitte Macron avait fait une erreur en acceptant de poser pour Paris Match avec Caroline Pigozzi. Il s'était énervé, il avait tapé du poing sur la table, dites donc.
Au sens propre?
Au sens propre, ouais.
Il était venu comme président ou comme candidat?
Il était candidat à l'époque.
Vous n'avez pas reçu de président encore?
De président en exercice, non. On a reçu d'anciens présidents, puisque Nicolas Sarkozy est venu, et je l'ai même accusé d'agression sexuelle par erreur, parce que j'ai confondu Nicolas Hulot et Nicolas Sarkozy. Ouais. C'était dur, ça, sur le moment, j'avais vraiment envie de disparaître.
Et je précise que Nicolas Hulot, dans cette affaire, a été blanchi, qu'il y a eu un non-lieu, et que le journal qui l'accusait, qui s'appelait L'Hebdo, a coulé. On a beaucoup parlé du clash avec Nicolas Dupont-Aignan, qui avait insulté Patrick Cohen, il l'avait traité de serviteur du pouvoir, et vous lui avez demandé de quitter le plateau, de s'excuser. Je ne me souviens plus comment c'est fini, il a choisi quelle option?
Il a quitté le plateau. Non, il a refusé de s'excuser. Ouais. Parce qu'au début, je ne lui ai pas demandé tout de suite de quitter le plateau. Je lui ai dit, monsieur Dupont-Aignan, est-ce que vous revenez sur ce que vous venez de dire? Est-ce que vous retirez ce que vous venez de dire? Vraiment en bonne mère de famille.
Ouais.
C'est-à-dire que vous avez vos deux enfants, il y en a un qui dépasse les bords.
Ouais, j'ai compris.
Ok, tu retires ce que tu as dit? Non. Bon, dans ce cas, il va falloir
Tu
quittes la table.
Alors, il y a des moments de tension qui sont devenus des gags, comme quand Alessandra Sublet avait parlé à François Hollande de sa mère. Elle lui avait dit, vous l'appelez une fois par semaine, il paraît. Et en fait, non, elle était morte récemment.
Oui.
Est-ce que vous allez repasser ces moments?
Je crains que oui. Bah, ça reste dans l'histoire. Franchement, ça s'est rentré dans l'histoire. Hein. Ou comme quand Anne-Sophie Lapix s'adresse à Patrick Cohen en l'appelant Patrick Bruel, par exemple. Ouais. On va pas se passer tous ces moments-là. Anne-Sophie a un problème avec les prénoms, les noms.
Ah oui.
C'est marrant, quoi. C'est sa spécialité.
Nicolas bon. Pancaré aussi, si je peux cafeter.
C'est vrai.
Ouais, vous verrez. Les audiences au beau fixe, on pensait que ça allait baisser avec le départ d'Anne-Sophie Lapix, pas à cause de vous, mais parce que ce n'était plus une année présidentielle. L'audience a monté, ça a encore monté cette année. Vous avez gagné 100 000 téléspectateurs, 1,3 million de téléspectateurs en moyenne. Vous faites le jeu égal maintenant avec les autres talk shows que sont Quotidien et TPMP. Touche pas à mon poste. Est-ce que vous êtes en compétition? Vous regardez ça d'un œil distrait, amusé, inquiet?
Non, d'un œil professionnel,
ouais.
Mais serein.
Il y a une compète, quand même, que vous le vouliez ou non. C'est la compétition pour obtenir les invités.
Bien sûr.
Parce qu'ils ne peuvent pas être dans toutes les émissions. Qu'est-ce que vous mettez en avant à leur intention pour qu'ils viennent sur votre plateau plutôt que chez la concurrence et ils viennent de plus en plus chez vous?
Nous, on a deux arguments en notre faveur. Premièrement, on a du temps à consacrer à nos invités. C'est-à-dire que tout d'un coup, Catherine Deneuve, bonjour Madame Deneuve, vous voulez qu'on pousse les murs? On vous offre 1h30 d'antenne.
Il n'y a pas 200 chroniques qui succèdent?
Non, c'est 1h20 sans aucun autre invité, aucune autre chronique. Basta.
Ça, c'est le premier argument.
Premier argument. Deuxième argument, il n'y a pas de public. Et donc, il y a une proximité et la sensation de ne pas faire de la télévision.
À la rentrée, puisqu'on parle de durée, des bruits insistants disaient que l'émission allait être allongée d'une demi-heure. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est signé?
Non, l'émission reste sur sa durée historique.
Il y aura
1h20.
Il y aura quoi de neuf pour la saison prochaine, si vous pouvez le dire?
Pour l'instant, on y travaille. Il y aura peut-être des choses. On n'a pas finalisé.
Ça vous fait marrer?
Ben, ça me fait marrer parce que ça a l'air d'être improvisé. En fait, rien n'est vraiment improvisé.
Non, mais c'est une émission média ici. On est obligé de poser la question.
Ah oui. Ben,
vous ne savez pas, en fait.
Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre, cher Philippe.
Parce que vous ne voulez pas ou parce que vous ne savez pas?
Parce qu'on n'a pas encore les réponses à toutes nos questions.
Qu'est-ce qui a changé chez vous en deux saisons, maintenant que l'émission s'est installée?
J'ai vieilli de 2 ans.
Nous tous.
J'ai pris 2 ans, Philippe. Ce qui a changé...
Alors, je vous dis où je veux en venir.
Ouais.
C'est Père Lescure, qui vous connaît bien, c'est l'un de vos chroniqueurs, c'est l'ancien patron de Canal+, il connaît bien les gens de télévision. Il a une formule intrigante qui vous concerne. Il dit de vous, elle n'a pas le trac, mais elle n'est jamais sûre d'elle. Est-ce que vous confirmez et qu'est-ce que ça veut dire?
Et c'est Pierre Lescure. Je ne sais pas s'il y a meilleur que lui pour être synthétique et juste à ce point.
C'est ça?
Oui, il a raison. Je n'ai pas le trac. Je prends l'antenne, je n'ai pas peur, mais je la rends. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne émission.
C'est à vous, c'est une émission dont on ne se fait jamais virer. Anne-Sophie Lapix avait quitté l'émission pour partir présenter le 20h de France 2. Avant elle, Alessandra Sublet avait quitté l'émission pour aller sur TF1. Et vous, Pierre-Antoine Capton, votre producteur, dit que vous êtes là pour 10 ans. Mais vous, je ne vous demande pas si vous voulez partir, vous n'allez pas partir, vous serez là. Mais si vous vouliez partir, vous aimeriez faire quoi ensuite?
J'aimerais bien présenter C'est à vous.
Bah ça y est, c'est fait.
Non, honnêtement, je suis bien dans ma peau et bien là où je suis. Dans 10 ans, c'est loin, non? On verra dans 10 ans.
Mais pas dans 10 ans, dans 8, dans 5.
Ah non.
L'Eurovision, vous aimeriez des chiffres et des lettres? Non, je propose des grandes émissions.
Moi, j'aimerais bien avoir... À la radio, oui, j'ai des rêves de radio. Ça, c'est sûr.
Non, mais à la radio, les meilleurs sont au micro. Merci beaucoup.
Oh, bah ça y est, et on s'arrête là-dessus.
Mais évidemment.
C'est quoi ce scandale?
Vous aviez une meilleure chute.
Tous les meilleurs sont à la radio. Et on a le droit de discuter cette affirmation?
Un, on a le droit, mais deux, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth Lemoine. Je le rappelle, les 10 ans de C'est à vous, c'est vendredi le 21. Et sinon,
honteux,
on vous retrouve
honteux.
Tous les jours sur France 5. C'est à quelle heure?
À 19h.
À 19h. Merci.
Peut-être même un peu avant, je ne suis pas bien sûre de l'heure du début.
Elle est vraiment sur le coup, Anne-Elisabeth Lemoine, et c'est pour ça qu'on l'aime.
Bonne fin de journée avec Europe 1, il est 18h46 et on va rester dans les médias, Philippe Vandel.
La chronique média de Renaud Revel. Bonsoir Renaud.
Bonsoir Philippe.
Et vous allez nous parler de tension.
Eh oui Philippe, le climat se tend entre la secrétaire d'État Marlène Schiappa et un petit nombre de journalistes et d'animateurs qui acceptent de moins en moins ses prises de position et ses critiques. Et pour la première fois, une figure de ce métier la met publiquement en cause, Laurent Ruquier.
Et vous avez rencontré Laurent Ruquier en exclusivité.
Et oui, il y va fort, très très fort Philippe. Nous vivons sous la dictature de Marlène Schiappa, affirme celui qui pousse rarement de tels coups de gueule.
C'est vrai.
Comme c'est le cas dans les colonnes du JDD où il s'en prend violemment à la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y en a marre, s'emporte en effet celui que j'ai rencontré en début de semaine et qui dit ne plus supporter l'interventionnisme d'une responsable politique omniprésente dans les médias et qui, depuis son arrivée à la tête de ce ministère, n'a de cesse de recadrer chaînes de radio et de télé journaliste et animateur.
Alors c'est quoi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ?
La goutte d'eau, le dernier exemple en date, remonte à quelques jours quand on l'a vu monter au créneau suite au dérapage sur l'antenne d'RMC du journaliste Daniel Riolo et du consultant Jérôme Rotten qui ont évoqué, il est vrai, avec légèreté, les frasques sexuelles du footballeur brésilien Neymar.
Oui, mais en même temps, il y a quand même une histoire de viol là-dessous, donc en même temps, elle était peut-être aussi un petit peu dans son rôle.
Il n'empêche, ça ne passe plus pour Ruquier, qui est le premier à dire tout haut ce que beaucoup d'animateurs et de journalistes pensent tout bas, à savoir que ce membre du gouvernement outrepasserait sa fonction en lieu et place du CSA et des patrons de chaîne que Marlène Schiappa rappelle régulièrement à l'ordre. Et Laurent Ruquier pose la question, est-ce que Daniel Riolo et Jérôme Rotten auraient été mis à pied par la direction de cette station, comme c'est le cas, si cette secrétaire d'État n'était pas intervenue publiquement? Bonne question.
Bonne question. En même temps, Riolo et Rotten vont retrouver leur micro sur RMC dans pas longtemps. Ruquier met également en cause, dites-vous, le rôle des réseaux sociaux.
Oui, de Twitter en particulier. Il rend responsable de la vitesse inquiétante avec laquelle son métier s'est dégradé depuis quelques années, selon lui. On ne peut plus rien dire dans les émissions de talk show, dit-il, sans se faire étrier par une minorité d'internautes anonymes qui font d'immenses dégâts. Ruquier explique ainsi que les départs de ses deux chroniqueurs, Christine Angot et Charles Consigny, sont dus avant toute chose à la violence dont ils ont été la cible sur les réseaux sociaux durant toute cette saison. Tout le monde a peur aujourd'hui, dit Ruquier, du CSA, de patrons de chaîne sous pression également, d'une suspension d'antenne et d'un tweet de Marlène Schiappa. Quelques dizaines de signalements au CSA suffisent aujourd'hui, dit-il, pour qu'une émission soit sanctionnée. Et Ruquier n'y va pas de main morte. Il n'est pas une personne. Il cible notamment deux anciens chroniqueurs dont n'est pas couché, Audrey Pulvar et Émeric Caron, à qui il ne pardonne pas de s'en prendre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, toujours à une émission qui a fait leur notoriété auprès du grand public.
Il vise qui d'autre ?
Bruno Mazur, Roger Zabel également, deux journalistes aujourd'hui sans fonction qui le critiquent régulièrement et allègrement sur ces mêmes réseaux sociaux. Un Ruquier en colère donc, qui n'a pas averti les dirigeants de France Télévisions de cette charge contre un membre du gouvernement et pas n'importe laquelle.
Alors maintenant, comme ça, ils sont au courant.
Oui. Et Laurent Ruquier ne compte pas s'arrêter là. Il projette de se coordonner dans les jours à venir avec d'autres médias, d'autres confrères journalistes et animateurs autour d'une tribune libre qui devrait être publiée dans les colonnes d'un grand quotidien d'ici à la fin du mois.
Affaire à suivre. Merci pour ces infos exclusives. Renaud Revel, à la semaine prochaine.
Merci Philippe.
Europe 1.
Dans un instant, la chronique auto, c'est tout roule avec Pierre de Villeneuve, ce vénard qui a pu essayer pendant presque une semaine la nouvelle. Oh non, je vous dis pas. À tout de suite.
Il est maintenant 18h54 et on va retrouver Philippe Vandel pour la suite de votre grand journal du soir.
Place à Tout Roule, le magazine auto de Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Aujourd'hui au programme, une très très belle voiture de sport.
Oui, puisque c'était le week-end des 24 heures du Mans, il était clair pour moi de vous parler d'un mythe, d'une voiture de sport, voire de course, bref, d'une icône. Vous reconnaissez, Philippe, un moteur 6 cylindres à plat jusqu'en 1996 reproduit?
Je ne l'aurais pas reconnu, mais 6 cylindres à plat, c'est du Porsche.
Exactement, c'est la dernière mouture de la 911, sortie il y a quelques semaines, et j'ai eu l'occasion de la conduire au jour le jour pendant pratiquement une semaine. Écoutez, c'est tout simplement fabuleux.
Tu m'étonnes, vous n'alliez pas dire le contraire.
Non, non, mais je vous vois venir. La voiture à 180 000 euros, Villeneuve, sa chevalière, tout ça évidemment. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la 992, hein, c'est son nom de code, c'est l'update du logiciel existant. Comme sur les smartphones d'une marque ultra connue, c'est mieux quand on a la dernière version.
Bon alors, admettons, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux par rapport à la version précédente, qui était déjà extraordinaire, et si je compte bien, la 991?
Ouais, c'est ça, la 991 phase 2, car il y a aussi les sous-updates,
oh là là. Hein,
exactement comme avec les smartphones. Alors, plus légère, plus puissante. Ça, on s'en fiche, hein. Je veux dire, à ce niveau de puissance, 450 chevaux, on va dire, c'est vertigineux.
C'est trop.
Elle est hybridée légèrement, ça donne une petite impulsion au démarrage. Il y a quatre roues directrices, ce qui fait qu'en ville, elle est aussi agile qu'une Twingo. Après tout, 4,50 m, c'est grand, mais c'est pas si grand. Moi, je me suis garé dans des places où, franchement, je pensais pas pouvoir rentrer.
Mais rassurez-moi, là, vous me parlez des 24 heures du Mans, ça envoie quand même.
Ah, ça, pour envoyer... Vous voyez, c'est ça. Contrairement aux folles italiennes, les Porsche, ce sont des caméléons. Vous pouvez très bien conduire cool en ville. Et d'ailleurs, on ne peut pas débrancher le start and stop en mode normal. Il n'y a pas de bouton. Mais si vous avez besoin, soudain, d'un petit coup de boost... Voilà, il y a un petit bouton. Ça s'appelle le Sport Response. Et c'est la petite nouveauté sur le Sport Chrono. On appuie et hop, elle vous renvoie dans les tours pour passer plus vite, par exemple dans un nœud de circulation. Sinon, il y a évidemment le mode sport ou sport plus, là ça devient vraiment très rigolo. Il y a même un mode wet, en anglais ça veut dire mouillé.
Ça c'est bien.
Ouais, et je peux vous dire que je l'ai chauffée sur des pavés humides et elle reste vraiment dans ses cordes.
C'est une voiture sans défaut.
Alors il y a deux petits défauts. D'abord, le levier de vitesse a été très critiqué. Maintenant il n'y a plus de boîte manuelle, donc c'est uniquement un sélecteur de vitesse automatique et il fait la taille d'un briquet. Donc on se dit, bah c'est pas très viril, c'est pas très voiture de sport. On en pense ce qu'on veut, en tout cas ça fonctionne. Et puis il y a une chose qui est vraiment embêtante. Vous savez, il y a 5 compteurs sur les Porsche, notamment la pression d'huile, etc. Ça, c'est historique, ça a toujours été comme ça, avec le compte tour au milieu.
Ouais.
Le volant est fait de telle manière que les compteurs secondaires, on ne les voit plus.
D'accord.
Donc, apparemment, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être corrigé. Et puis, dernier détail, c'est nouveau, c'est la caution écolo de Porsche. C'est une voiture allemande, après tout, c'est le pays où on porte des Birkenstock. C'est l'application Impact. Elle mesure les taux de CO2 pendant votre trajet. Bon, je vous l'accorde, pour les puristes, c'est un peu un tue-la-bourre, mais en fait, non, parce que il peut y avoir des trajets plaisir où on en voit, et puis ceux du quotidien où on respecte l'environnement, on conduit cool. Et en plus, cette appli permet de reverser de l'argent à des ONG écolos, donc c'est plutôt pas mal.
Merci beaucoup Pierre de Villeneuve. Je serai pas là la semaine prochaine, vous savez pourquoi ?
Non.
Je serai au Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet et je serai le speaker officiel. Et je le dis, il reste quelques places. Merci.
Bravo
Pierre.
Bravo Philippe.
À dans deux semaines. Europe 1. Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. Après-demain, le gouvernement va présenter sa réforme de l'assurance chômage. On a déjà des pubs, on a déjà des pistes. Mercredi à l'Assemblée, le Premier ministre a annoncé quelques mesures, notamment une dégressivité de l'indemnisation pour les chômeurs qui percevaient auparavant les salaires les plus élevés. Cela vise sans les nommer les cadres. François Méril, président de la CFE-CGC, le principal syndicat des cadres, est vent debout contre cette réforme. Il taxe le gouvernement de populisme et dénonce une option politique dans sa version la plus vulgaire. Fin de citation. Il sera avec nous à 19h15. Et puis, dans la dernière demi-heure, un débat inédit sur le crash de Nathalie Loiseau au Parlement européen et le référendum d'initiative partagée au sujet de la privatisation d'Aéroports de Paris, un nouvel outil démocratique que beaucoup trouvent très très peu démocratique.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonne fin de week-end avec Europe 1, il est 19h. Le journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Le bilan est catastrophique en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les orages de grêle hier ont dévasté les récoltes. Les bâtiments ont également souffert, comme cette école de Bourg-de-Péage dans la Drôme. Nous entendrons la maire de la commune dans un instant. Ils sont 2000 jeunes à tester à partir d'aujourd'hui le service national universel. Une formation pour apprendre les valeurs de la République. Que s'est-il passé la nuit du meurtre d'Alexis à Daval en octobre 2017. C'est ce que tentera de comprendre la reconstitution du crime qui aura lieu demain à l'aube. Et puis le retour des héros, les rugbymen toulousains ont brandi tout à l'heure le bouclier de Brennus, place du Capitole.
Europe 1.
Les dégâts causés hier par les orages de grêle en Auvergne-Rhône-Alpes sont considérables.
Vergers ravagés, récoltes perdues, parfois 80 ou 100%, notamment dans la Drôme et l'Isère. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré dans les deux jours. C'est ce qu'a fait savoir Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui s'est rendu sur place ce matin. Les dégâts sont également importants pour les habitants et les communes. À Bourg-de-Péage, dans la Drôme, toute la journée, les équipes municipales se sont activées pour remettre en état l'école primaire. Elle a été très endommagée. Nathalie Liaison est la maire de la commune.
Cette école qui est l'école la plus touchée, avec 90% des vitres qui ont explosé, je crois qu'on peut dire les choses comme ça, elles ont explosé, avec la cour qui est aussi dévastée. Donc il y avait deux objectifs urgents, la mise en sécurité, le nettoyage pour faire en sorte que la vie redevienne le plus normal possible, le plus vite possible. Moi, j'ai eu des témoignages des enfants qui ont eu très peur parce que ça a été tellement violent, il y a eu tellement de bruit, tellement de vent. Le ciel s'est assombri d'un coup, enfin, presque comme si c'était l'apocalypse. Donc, le principe, c'est d'essayer de les rassurer puis de faire en sorte que la vie reprenne son cours le plus vite possible.
Nathalie Niaison, la maire de Bourg-de-Péage, au micro Europe 1 de Rémi Pierre.
Depuis ce matin, 2000 jeunes de 15 à 16 ans rejoignent leur centre pour effectuer leur service national universel.
Oui, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Durant 12 jours, ces jeunes vont apprendre les valeurs de la République. Le dispositif est en expérimentation dans 13 départements, parmi lesquels le Nord, où un centre a été installé à Morbecque. Et Kevin Tullier, vous êtes sur place pour Europe 1 et les jeunes commencent à prendre leur marque.
Oui, depuis ce midi, les jeunes arrivent au compte-gouttes hein, dans ce centre situé dans un hameau de Morbecque, entouré par quelques près 120 adolescents en tout de 15 à 16 ans, venus de Guyane notamment et de différents départements. Certains se sont déjà promenés autour du site, encadrés par des animateurs en polo blanc et casquette rouge. Et dès demain, réveil à 7h, levée des couleurs à 8h et très vite, une sensibilisation au droit de vote en présence du maire de Morbecque, Jérôme Darc.
Ils veulent faire de l'élection du maire du centre, hein, avec un prêt d'une écharpe, etc., avec la présence du maire. Que je suis et je le ferai, que ça permet de parler des valeurs de la République. Je pense que c'est vraiment une bonne chose à remettre en place. Ça permet une mixité sociale, territoire aussi, hein, et rencontrer des gens qu'on ne peut pas rencontrer autrement.
Et l'emploi du temps des jeunes à Morbecque s'annonce chargé. Code de la route, cours de self-défense, un hommage le 18 juin, un discours du général de Gaulle, puis une journée le 25 consacrée aux valeurs de la République. Ils termineront leurs 12 jours de service national par une cérémonie de clôture et de remise des diplômes.
Kevin Tullier à Morbecque pour Europe 1.
Et pendant que certains jeunes découvre le service national universel, on vient de l'entendre, d'autres affrontent une grosse échéance demain.
Les 744 000 candidats au bac général plancheront dès demain matin sur la philosophie, avec cette menace de grève des surveillants pour protester contre la réforme du bac. Jean-Marc Huard, le numéro 2 de l'éducation nationale, s'est voulu rassurant ce matin sur Europe 1. Pour lui, aucune crainte à avoir.
Nous nous sommes organisés pour que les épreuves se déroulent bien pour les élèves, hein, et je voudrais donner un message aux élèves et à leurs parents. Il faut qu'ils restent concentrés sur le début des épreuves.
Si ça prend de l'ampleur, vous pouvez réquisitionner des professeurs si besoin.
Écoutez, on n'en est pas là. Hein, on en est vraiment au fait d'avoir convoqué plus de surveillants. Et j'ai confiance en les professeurs. Je crois qu'il y a un temps pour le dialogue social, même un dialogue social vif. Et puis, il y a le temps des élèves. Et la semaine du bac, c'est le temps des élèves. Et les professeurs qui accompagnent leurs élèves depuis 3 ans, leur responsabilité est de les amener jusqu'au bout.
Jean-Marc Huard, le directeur général de l'enseignement scolaire, était l'invité d'Anne-Laure Jumet à la mi-journée sur Europe 1. On n'en sait plus sur l'âge d'équilibre de départ à la retraite évoqué cette semaine par Édouard Philippe. Si l'âge légal de départ, lui, ne bougera pas, il reste à 62 ans. L'âge d'équilibre pourrait être fixé à 64 ans. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, l'a évoqué ce matin sur Europe 1.
Notre système est déficitaire. L'idée, c'est que avec cet âge pivot, cet âge d'équilibre à 64 ans, c'est clair pour tout le monde. Nous savons qu'à 64 ans, le régime est équilibré, c'est-à-dire que les actifs sont en capacité de payer les pensions.
Donc l'âge légal à 62 ans, ça ne veut plus rien dire.
Non, parce qu'il y a des personnes qui ont des carrières très longues ou des carrières très pénibles et qui garderont cette capacité de partir à 62 ans. D'autres pourront le souhaiter pour X raisons. Elles pourront garder ce droit, d'ouvrir leur droit à 62 ans. C'est ça l'idée de la réforme, c'est en fait de laisser beaucoup de liberté aux gens et d'avoir effectivement un système peut-être de décote ou de surcote. Ça peut intéresser certaines personnes.
Agnès Buzyn, invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce matin, à la ministre de la Santé qui s'est également déclarée favorable au remboursement par la Sécurité sociale de la PMA pour les couples de femmes.
Les derniers doutes concernant la nuit du meurtre d'Alexia Daval vont-ils être levés? La reconstitution est prévue demain matin, on vous dit tout dans un instant.
Il est 19h07, la suite du journal sur Europe 1. Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
On attend une étape très importante dans l'affaire du meurtre d'Alexia Daval.
Oui, demain au petit matin se tiendra la reconstitution des faits à Grès-la-Ville en Haute-Loire. Si Jonathan Daval a reconnu avoir étranglé son épouse dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, plusieurs zones d'ombre subsistent. Arthur Anne-Bachet, comment va se dérouler cette reconstitution ?
Ça va se passer en 2 temps. D'abord dans la maison de l'ex-couple Daval, puis dans le bois où le corps d'Alexia a été découvert. 2 lieux pour 2 questions, 2 enjeux essentiels. D'abord dans la maison, reconstitution de la bagarre mortelle entre Jonathan et Alexia pour peut-être trancher entre l'hypothèse de l'accusation, meurtre, et celle de la défense, violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En clair, il se serait simplement défendu après une agression, une attaque violente de sa femme. Dans ce cas, il encourrait une peine moins lourde aux assises. Concrètement, Jonathan devrait jouer, si on peut dire, son propre rôle, celui d'Alexia, étant assuré par une gendarme. Ensuite, dans le bois des Moulins, les enquêteurs, le juge d'instruction, les avocats observeront avec attention l'attitude, les réactions de Jonathan Daval, qui assure depuis toujours que ce n'est pas lui qui a mis le feu au cadavre de son épouse. Tout ça va commencer à 5h demain matin et devrait s'achever à la mi-journée.
Arthur Henbaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est, donc la reconstitution du meurtre d'Alexia Daval qui se tiendra demain matin à Gré-la-Ville en Haute-Saône. Dans l'actualité internationale, les Hongkongais maintiennent la pression. Ils étaient 2 millions selon les organisateurs à réclamer le retrait de la loi sur les extraditions vers la Chine. Un texte qui a été suspendu hier. En Amérique latine, cette coupure d'électricité massive, toute l'Argentine et l'Uruguay ont été plongés dans le noir en raison d'une faille massive d'interconnexion électrique, plus de 47 millions de personnes se sont retrouvées sans courant.
Retour en France avec l'arrivée en héros des rugbymen du Stade Toulousain.
Au lendemain de leur victoire en finale du top 14 face à Clermont, ils ont ramené le bouclier de Brennus et l'ont montré place du Capitole à leurs supporters, ivres de joie et de fierté.
C'est très important chez Toulousaine et c'est vrai que pour nous, l'équipe du Stade Toulousain, c'est très important. C'est le jeu, c'est l'ambiance, c'est Toulouse, c'est un tout. Voilà, c'est vraiment, je suis Toulousaine pur sang.
Déjà que j'ai pas pu suivre la finale hier parce que je travaillais hier soir, donc ce midi c'était obligatoire, je devais être là. C'est génial de les voir chanter comme ça avec tout le public là, la place noire de monde. Tous aux couleurs rouge et noir, c'est génial.
On est là, on veut le voir et partager ça avec les joueurs. C'est les valeurs du rugby et avec la Toulouse, c'est la terre. Hein. C'est pour nous, c'est primordial. On a une nouvelle génération de jeunes. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec les Dupont, Ntamack. Oui, on va avoir de belles années devant nous à Toulouse.
Les supporters toulousains au micro Europe 1 de Patrick Anselmetti.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie. La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Après un début de mois frisquet, encore c'est rien de le dire, vous nous dites que les températures remontent cette semaine.
Et oui, c'est vrai que les premiers 10 jours de ce mois de juin ont été plutôt frais à l'échelle de la France avec moins 0,5 degrés par rapport aux moyennes de saison et un fort contraste entre l'Est plus chaud et l'Ouest plus frais. Et à partir de ce week-end, la goutte froide, qui est responsable de l'instabilité, s'éloigne en mer du Nord, permettant à l'anticyclone des Açores de reprendre de la vigueur et de venir se regonfler sur l'Hexagone. Donc jusqu'à jeudi, il va faire chaud avec demain déjà des maximales qui vont frôler les 33 à Nîmes, 32 à Carcassonne, 31 à Cahors, 29 à Marseille, Angoulême et Brive-la-Gaillarde, 27 en région parisienne ainsi qu'en région strasbourgeoise, 26 degrés dans l'Orléanais, 25 à Saint-Étienne ou encore à Clermont-Ferrand et 22 degrés à Caen et à Lorient. Le ciel sera beau partout, sauf sur le massif alpin, plus nuageux qu'ailleurs et même orageux.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous. Rebonsoir Christophe Lamarre.
Rebonsoir Philippe.
Alors on a entendu dans le journal de Sophie Tussaud la joie des Toulousains champions de France de rugby. On espère la même chose pour les filles de l'équipe de France de football demain soir.
Elles sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, mais la question qui se pose désormais, c'est le classement.
Eh oui.
Faut-il battre le Nigeria pour terminer première avec le risque de croiser ensuite la route des redoutables américaines ou alors faire match nul ou perdre pour prendre la deuxième place et s'assurer une deuxième partie de Coupe du Monde un peu plus abordable? That is the question. Non, ce n'est pas une question. Nous ne calculerons pas, explique Élise Bussaglia.
Moi, je veux pas être dans le calcul. Je me dis que de toute façon, on a un troisième match à faire. J'espère qu'on va le gagner. J'espère qu'on va continuer sur une dynamique positive de victoire. Et puis on verra après, c'est peut-être les autres équipes qui feront des calculs. En tout cas, nous, on joue, on est le groupe A, donc on jouera en premier notre troisième match. Donc, mis à part gagner et penser à la victoire, on n'a rien d'autre à espérer.
Élise Bussaglia au micro de Julien Froment. France-Nigeria demain soir au Roazhon Park de Rennes. Coup d'envoi à 21h. Cet après-midi, la Suède a battu la Thaïlande 5-1. Les Suédoises sont d'ores et déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Et puis en ce moment, les États-Unis, qui en avaient passé 13 à la Thaïlande il y a quelques jours, eh bien, mènent 3-0 contre le Chili.
Le football, toujours côté transfert cette fois, il y a du sûr et certain et du possible.
Alors on commence par le sûr ?
Ouais.
Bon, très bien. Le sûr, c'est l'arrivée sur le banc de la Juventus Turin de Maurizio Sarri, ex-entraîneur de Chelsea. Le possible, c'est le départ de Paul Pogba. Le Français est à la recherche d'un nouveau challenge. C'est ce qu'il déclare à nos confrères britanniques du Guardian aujourd'hui. Le champion du monde va-t-il quitter Manchester United pour le Real Madrid ? Réponse dans les prochaines semaines.
Les 24 heures du Mans, là encore c'est du sûr, le sacre de Toyota était attendu, c'est l'ordre d'arrivée qui ne l'était pas.
Oui, la numéro 8 devant la numéro 7 et pourtant l'équipage Alonso Nakajima Buemi a longtemps roulé derrière la Toyota numéro 7, mais une crevaison dans la dernière heure de course a propulsé ce trio en tête. L'émotion était particulière pour Fernando Alonso, champion du monde de F1 et désormais champion du monde dans la catégorie endurance. Il s'offre également un deuxième succès au Mans.
Je pense que la course était un peu difficile de contrôler l'émotion. Et à la fin, d'avoir la chance, la fortune de gagner la course, c'était incroyable. C'est une mauvaise nouvelle pour la voiture 7. Et je pense qu'il mérite de gagner la course, mais aujourd'hui, nous devons prendre la coupe et le titre mondial.
Fernando Alonso au micro d'Axel May, l'automobile toujours, mais catégorie WRC, victoire de l'Espagnol Dani Sordo au rallye de Sardaigne. Ott Tanak prend la tête du classement pilote.
Le reste de l'actualité sportive, en bref.
Le cyclisme Jakob Fuglsang remporte le critérium du Dauphiné pour la deuxième fois de sa carrière. Le premier français Thibaut Pinot se classe cinquième. La dernière étape est revenue au néerlandais Dylan Van Baarle de la formation Ineos. Sur le Tour de Suisse, c'est l'Espagnol Luis León Sánchez qui remporte la deuxième étape. Le maillot de leader est désormais sur les épaules du Danois Kasper Asgreen. Le tennis, une première pour Adrian Manarino. Le Français s'offre le premier titre de sa carrière sur le circuit. Il s'impose à Esch-Hertogenbosch face à l'Australien Jordan Thompson. De son côté, l'Italien Matteo Berrettini remporte le tournoi de Stuttgart aux dépens du Canadien Félix Auger-Aliassime. Et puis côté femme, Caroline Garcia vient de s'adjuger il y a quelques minutes le tournoi de Nottingham. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que dans deux semaines, évidemment, tout cela, ce sont des tournois sur gazon.
Qui prépare Wimbledon.
Wimbledon. Vous savez quand ? Allez.
Dans deux semaines, je vais dire.
Dans deux semaines, le 1er juillet.
Voilà. Alors,
bonne réponse. La MotoGP avec un premier...
C'était sur le texte. Hein.
Vous avez triché, c'est pas bien. Attention, c'est le bac demain, on ne triche pas, Philippe, on ne triche pas. La MotoGP avec un premier podium pour le Français Fabio Quartararo qui termine deuxième du Grand Prix de Catalogne derrière Marc Marquez.
Et c'était le journal du bachelier Christophe Lamarre. Merci beaucoup,
révisé. Merci,
Christophe.
Philippe.
À suivre, une réforme explosive qui sera présentée mardi par le gouvernement, l'assurance chômage. Le principal syndicat de cadres monte déjà au créneau face aux premières pistes évoquées. Parmi elles, des allocations qui baissent progressivement pour ceux qui avaient un salaire élevé, donc viser les cadres. Mesure juste ou alors démagogique, François Omeril, le président de la CFE-CGC, est avec nous dans un instant.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Philippe Vandel, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Et maintenant à 19h17, eh bien on va parler politique et économie, Philippe.
Après-demain, mardi 18, le gouvernement va présenter sa réforme de l'assurance chômage et on a déjà des pistes. Mercredi dernier à l'Assemblée, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé quelques mesures de la réforme à venir, notamment, je cite, « une dégressivité de l'indemnisation pour les chômeurs qui percevaient auparavant les salaires les plus élevés. Cela vise, sans les nommer, les cadres ». Bonsoir François Omeril.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la CFE-CGC, le principal syndicat des cadres. Vous avez lancé une pétition cette semaine avec la CGT. Je donne le titre « Non à la dégressivité des allocations chômage ». Pour quelle raison ?
C'est un moyen comme un autre de protester contre une mesure qu'on considère comme étant une mesure d'abord inefficace, c'est une mesure injuste, c'est une mesure inefficace sur le plan économique, c'est une mesure symbolique et qui tente à attaquer un système, l'assurance chômage, qui est un système par définition assurantiel, qui est un système robuste et qui est basé sur le principe de solidarité intercatégorielle. Et donc, on considère que le gouvernement, à travers cette mesure, eh bien, envoie un signal qui n'est pas positif vis-à-vis de la société, vis-à-vis des cadres, vis-à-vis de ce qui fait du lien entre les différentes catégories socioprofessionnelles. Voilà pourquoi on a trouvé ce moyen, entre autres, pour protester contre cette mesure.
D'abord d'un mot, est-ce que le système est excédentaire ou déficitaire ? Parce qu'on sait que partout, le gouvernement cherche à faire des économies.
Non, le gouvernement est mal placé pour vouloir faire des économies sur un système qui l'a lui-même mis en danger. Le système, il est excédentaire depuis 20 ans. Si on fait la balance entre les cotisations encaissées, les contributions et les allocations chômage versées, eh bien, le système est excédentaire.
Alors vous dites que cette dégressivité de l'indemnisation pour les chômeurs qui avaient les salaires les plus élevés est injuste. Pour quelle raison ? Parce qu'on a l'impression que c'est au contraire une mesure de bon sens.
Non, c'est absolument pas une mesure de bon sens. C'est une mesure qui d'abord est inefficace et elle est effectivement particulièrement injuste. Pourquoi ? Parce qu'elle cible une catégorie, la catégorie des cadres, qui se trouve être celle qui contribue le plus à l'équilibre du système. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du budget de l'assurance chômage, eh bien, les cadres l'alimentent à hauteur de 42%. Ce sont les cotisations et les contributions sur leur salaire, alors même qu'ils ne,
reçoivent
que 15% des allocations.
Ouais.
15%. La différence, c'est 10 milliards d'euros. Les cadres, en fait, contribuent à hauteur de 10 milliards d'euros à la solidarité intercatégorielle. Dit autrement, si on peut verser des allocations chômage aux gens qui sont éloignés de l'emploi, qui n'ont pas de diplôme, c'est grâce aux cotisations qu'on encaisse sur les salaires des cadres.
Parce que l'exécutif se défend en expliquant que pour cette catégorie socio-professionnelle, les cadres donc, le taux de chômage est très faible, 4% contre 8,7% en moyenne. Sous-entendu, le système peut se montrer un peu moins généreux pour des profils pour qui, c'est là où c'est important, les offres d'emploi ne manquent pas. Que pensez-vous de ce raisonnement ?
C'est un raisonnement pour le coup absolument scandaleux, c'est un raisonnement enfantin en fait, c'est la pensée magique. Le gouvernement dit, voilà, il y a à peu près 4% de chômage pour les cadres, mais ce que le gouvernement ne sait pas, c'est que quand on est cadre et quand on est au chômage, c'est très compliqué de retrouver un travail du même niveau de revenu qu'on avait. Le gouvernement raisonne sur la moyenne, mais la moyenne c'est personne en fait. Le gouvernement devrait comprendre que quand on a 50 ans et qu'on se retrouve au chômage, eh bien il n'est pas normal qu'on soit obligé de vendre sa maison pour continuer à financer les études de ses enfants. Parce que c'est très exactement la situation dans laquelle le gouvernement va faire basculer quelques personnes, évidemment, pas énormément, mais un certain nombre de personnes, qui se trouvent être celles qui ont le plus contribué au système et dont le gouvernement va enlever le bénéfice du système. Et ça, c'est particulièrement scandaleux.
Alors, il y a une étude qui a été faite, qu'on a vue dans Le Parisien. En 2017, il y a eu 15 600 chômeurs qui ont touché une allocation supérieure à 5 000 euros chaque mois. Ils sont restés plus d'un an et demi au chômage. Et en bas de l'échelle, il y a plus d'un million de chômeurs qui ont reçu un chômage lui-même inférieur à 1 000 euros par mois. Et ils n'ont bénéficié de leurs allocations que seulement 9 mois. Quel commentaire faites-vous ? Comment vous-même lisez-vous ces chiffres ?
Mais moi, je lis à l'envers du gouvernement. C'est que quand on avait dans l'activité, dans l'emploi, un niveau de bon revenu et qu'on se retrouve au chômage, eh bien, on a beaucoup plus de difficultés à retrouver un emploi du même niveau de revenu.
Vous voulez dire que ce ne sont pas les cadres qui en profitent pour rester au chômage, vu qu'ils sont bien rémunérés ?
Les chiffres disent le contraire. La catégorie de l'ensemble des cadres, de toute façon, contribue beaucoup plus au système qu'ils n'en profitent, entre guillemets.
Oui, mais ils restent un an et demi au chômage, alors que les gens qui touchent, qui sont au SMIC, restent seulement 9 mois. Donc on a l'impression qu'ils profitent du système. Que répondez-vous à cela ?
En vérité, non, ils n'en profitent pas. Et d'ailleurs, ça a été étudié, ce qu'on appelle l'aléa moral du système. L'aléa est relativement faible. Il est plus faible que la moyenne des systèmes européens. Ça veut dire exactement l'inverse. En fait, c'est très, très difficile quand on est un cadre en milieu de carrière et qu'on avait un bon niveau de revenu et qu'on avait un poste de bon niveau, de retrouver un emploi du même niveau. C'est très compliqué. Et souvent, et notamment à travers la dégressivité qui a existé à une certaine époque, eh bien, on pousse les gens à accepter des emplois qui ne sont pas du même niveau de qualité. Et donc, on dévalue l'ensemble même de la pyramide des emplois. C'est une mesure très contre-productive qui a été abandonnée justement parce qu'elle pousse les gens à accepter des emplois sous-qualifiés.
Et cette mesure avait été déjà mise en vigueur en 92, puis abandonnée 9 ans plus tard. Autre nouveauté annoncée par Emmanuel Macron, c'était pendant la campagne présidentielle, mais cela devrait arriver prochainement, maintenant qu'il est devenu président, toucher le chômage, même en cas de démission. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Pas vraiment, c'est une mesure qui pourrait être catastrophique pour l'économie, parce que la vision que nous avons aujourd'hui des gens dans l'emploi est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bien dans leur emploi, et si on leur offre la possibilité d'être indemnisés après la démission, eh bien, il y a un grand risque pour qu'il y ait une grande vague importante de gens qui quittent leur emploi et qui pourraient créer un problème économique absolument colossal. On emploie parfois le nom de « blast ». C'est-à-dire tout d'un coup, plusieurs milliers de personnes qui quitteraient leur emploi, tout simplement parce que, pour tout un tas de raisons, bonnes ou mauvaises, bien, ils considéreront que c'est le moment donné pour eux de changer d'emploi. Et ça, l'économie probablement pourrait ne pas pouvoir le supporter.
Si j'ai bien compris, il y aura des conditions drastiques pour pouvoir bénéficier de cette disposition. Selon vos informations, comment cette mesure sera-t-elle appliquée ?
Pour le coup, on n'a pas beaucoup d'informations parce que le gouvernement qui avait annoncé la chose il y a un an et le candidat Emmanuel Macron, il y a 2 ans, pendant la campagne présidentielle, qui en avait parlé, je pense, n'avait pas mesuré l'impact. Rappelez-vous, à l'époque, le ministère du Travail avait chiffré le coût qui pourrait atteindre jusqu'à peut-être 10 milliards d'euros.
Ouais.
Donc aujourd'hui, effectivement, il est probable que si le gouvernement revient dessus, il va mettre des conditions extrêmement restrictives. Et donc finalement, il va vider de son sens la mesure. Mais ça, on peut le comprendre parce que que c'est pour le coup la mesure la plus inquiétante que le gouvernement aurait pu adopter en la matière. Donc il est probable qu'il va afficher quelque chose sur le sujet, mais que cette mesure sera très peu efficace vis-à-vis des démissionnaires.
Merci beaucoup François Méril. Je rappelle que vous êtes le président de la CFE-CGC. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci à vous.
Dans un instant, comme chaque dimanche, notre demi-heure débat au programme Le Crash de Nathalie Loiseau au Parlement européen et le référendum d'initiative partagée au sujet de la privatisation ou non d'Aéroports de Paris, un nouvel outil démocratique que beaucoup trouvent très très peu démocratique. On en parle avec des invités qui, j'en suis sûr, ont tous décroché une mention au bac.
Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1. Et comme chaque dimanche, cette dernière demi-heure, on la consacre à notre débat d'actu, Philippe Vandel.
Avec Yannick Halimi. Bonsoir Yannick.
Bonsoir Philippe Vandel.
Ravi que vous soyez ici, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, Jean-Sébastien Ferjou.
Bonsoir.
Je ne suis pas moins ravi que vous soyez ici avec nous, fondateur et directeur d'Atlantico, le site internet. Juste un mot, parce que j'ai fait une petite blague. Vous avez eu le bac avec mention, tous les deux, Yannick Halimi.
J'ai eu le bac avec mention.
Quel bac ?
Oh là là, le bac A5, littérature langue.
Bah, c'est vachement bien, pourquoi vous dites oh là là ?
Oui, non, parce que j'avais oublié déjà, mais vous me le faites rappeler là.
Il faut réviser, Jean-Sébastien.
Oui. Un bac C, c'était scientifique à l'époque.
Les maths, et vous étiez bon en maths ?
Non. Mais heureusement, j'étais bon ailleurs. Donc, mais c'était non, mais pour le coup, c'était heureusement que ça a un peu changé. On était obligé de faire des maths à l'époque si on voulait être dans les filières dites bonnes.
Alors je vais le dire, parce que moi j'ai fait aussi un bac C. J'ai pas eu de mention, moi j'ai eu le bac C, mais moi j'étais bon en maths. Mais il fallait faire des maths et de la physique, même pour aller en hippocagne en cagne, ce qui n'avait strictement aucun sens.
Exactement mon cas. Voilà.
Bon, écoutez, moi j'ai fait littéraire langue, j'ai fait Sciences Po, Prépéna, droit, voilà. Hein, je suis journaliste aujourd'hui, mais bon, voilà, on n'est pas obligé de faire des maths. Ça dit, c'était peut-être pas la même année. Hein.
Alors, il y en a une qui a dirigé l'ENA. Elle a fait un très bon score le 26 mai. C'est Nathalie Loiseau qui représentait les couleurs de La République En Marche. Elle était non pas première, mais deuxième, mais très très proche du Rassemblement National. Et Nathalie Loiseau, malgré tous ses diplômes, semble avoir tout gâché à cause de son imprudence bavarde. Elle briguait la présidence du groupe Renew Europe. J'ai pas fait beaucoup d'anglais, vous voyez mon accent.
C'est bien, c'est bien.
C'est le nouveau nom de l'ex-groupe ADLE. Elle a été contrainte de s'effacer. D'abord, à votre connaissance, est-ce que c'est elle qui a décidé de renoncer ou est-ce qu'elle a été forcée par ses propres troupes ?
Oh bah, par ses propres troupes et puis par le président de la République en personne. N'oublions pas quand même que c'est la créature, entre guillemets, d'Emmanuel Macron. Et si, à mon avis, La République En Marche est arrivée en deuxième, si proche du Rassemblement National, c'est bien parce que Emmanuel Macron, et puis d'autres aussi, Pascal Canfin, certains écologistes de la liste Loiseau, ils sont allés de leur...
sont entrés dans la bataille.
Voilà, de leur dynamique à eux, et c'est certainement pas Loiseau qui a fait gagner, entre guillemets, bien sûr, gagner la liste République En Marche.
Vous êtes d'accord avec ça ? C'est le président qui l'a débranché, si j'ose dire ?
Je pense qu'elle était certainement suffisamment lucide elle-même pour y renoncer, mais quoi qu'il en soit, on lui a fait comprendre effectivement que son atterrissage à Bruxelles était particulièrement raté.
Je vous interromps parce qu'un bachelier vient d'entrer dans ce studio, Razia Madi. Bonsoir.
Je révisais.
Vous êtes fondateur de New Tank Cities, ancien porte-parole et ancien député PS, vous avez eu le bac. Question rituelle que je viens de poser à mes amis, avec mention.
Oui.
Waouh, quel bac, quelle mention, et après on enchaîne sur Nathalie Loiseau.
S à bien. Mais c'était une spécialité maths, coefficient 9, et ouais. J'ai eu 5 en maths.
Wow, bah, comme Jean-Sébastien Ferjou, qui a eu un bac C en étant mauvais en maths.
J'avais eu un peu plus que 5.
Bon. Alors avant de vous demander quelles seront les conséquences du crash de Nathalie Loiseau, je vais revenir sur les faits. Le 5 juin, elle se trouve devant une dizaine de journalistes français réunis au Parlement européen à Bruxelles. Elle a une conversation en off, ce qu'on appelle l'off, c'est-à-dire on vous le dit, mais vous ne l'écrivez pas dans le journal. Personne ne trahit l'off, sauf un journaliste qui lui-même n'assiste pas à la conversation, mais on le racontait. Et on l'a retrouvé dans plein de journaux, dont Le Canard Enchaîné, donc partout, morceau choisi. Nathalie Loiseau a qualifié d'ectoplasme le candidat à la présidence de la commission Manfred Weber, qui n'aurait au passage, selon elle, aucune fiabilité. Elle a traité Jean Arthuis d'aigri et elle a ajouté « Le souci de l'Europe, c'est Angela Merkel ». D'un mot, est-ce qu'elle s'est pris toute seule les pieds dans le tapis ou alors est-ce qu'elle a été trahie ? Comment vous voyez ça, vous ?
Et un, elle s'est pris les pieds dans le tapis, on n'a pas le droit de dire des choses comme ça, au-delà de la...
Ça allait être ma question. Vous faites souvent du off, vous, Yannick
Halimi. Oui, mais alors elle a fait, entre guillemets, la bévue de faire du off devant des journalistes qui ne veulent rien dire, et en plus de ne pas inviter la sommité, le journaliste qui fait la pluie et le beau temps à Bruxelles.
Quatremer.
Voilà, Jean-Monsieur Quatremer, et c'est lui qui a participé de la désophisation des propos, j'allais dire. Et donc c'est une double erreur de la part de Nathalie Loiseau.
Non, mais surtout, on peut faire du off peut-être devant un journaliste, mais oui, devant plus d'une dizaine, parce que devant un, vous pouvez toujours dire non, c'est parole contre parole. Ouais. En revanche, devant une dizaine, c'est quand même prendre un risque un peu inconsidéré.
Et puis le off, il ne sert pas à ça, dans les faits. Le off,
à quoi ça sert, le off?
Le off, ça peut servir à expliquer des choses qui sont longues, complexes, des jeux d'acteurs.
Pardon, Razni, pourquoi le faire en off, si c'est pour expliquer quelque chose de complexe? Le off, c'est pas fait pour balancer.
Le off, c'est pas fait pour, en tout cas, insulter les gens. Puisque de fait, à partir du moment où il y a plus de deux journalistes, en effet... ça se sait, surtout que là c'est assez simple, celui qui a vendu la mèche c'est un journaliste du soir, ouais. Qui n'était pas là, qui dit on me l'a rapporté, je diffuse
un belge.
Et donc là l'erreur de l'oiseau, mais je veux pas tirer dessus l'oiseau, mais c'est un petit peu la même erreur que ce qui s'était passé sur la polémique au fait qu'elle était participée il y a je sais pas 40 ans sur une liste du GUD, c'est d'avoir dit non, c'est pas vrai,
ah oui.
C'est un mensonge, parce que là Quatremer qui a pas été invité, c'est lui qui ensuite dit attention. Certes, la personne qui rapporte les propos n'était pas là, le journaliste du soir, mais maintenant, démentir quelque chose qui a été dit devant 20 journalistes, et c'est là que, voilà.
J'ai son démenti. Dans un premier temps, Nathalie Loiseau a déclaré avoir lu un très étrange article, et ensuite elle a dit « Je ne reconnais pas les propos qui me sont attribués, sa parole a dépassé sa pensée, c'est possible ?» Ou est-ce vraiment elle pense ça, qu'Arthur est un aigri et...
C'est pas sur une personne, c'est-à-dire qu'elle l'a dit sur beaucoup, et surtout pire, elle l'a dit sur ceux qui étaient censés être ses alliés, c'est-à-dire que Guy Verhofstadt, qui est le président du groupe, auquel appartiennent maintenant les députés de La République En Marche, a dit qu'il était plein de frustrations rentrées, que Jean Arthuis, qui était un des piliers justement député européen lui depuis longtemps, était un homme aigri et que finalement il n'avait rien fait depuis le temps qu'il était au Parlement européen, parce qu'il ne cessait de se lamenter sur le fait que l'Europe n'ait pas de budget ou je ne sais plus quoi. Donc voilà, on ne peut pas tirer sur tout le monde. On peut éventuellement se désigner des cibles et se désigner des ennemis, pourquoi pas, pour créer un rapport de force, mais pas non plus faire comme si personne... Ce qui est d'autant plus étrange, c'est qu'elle avait envoyé un email aux autres députés de La République En Marche pour dire « Attention, nous sommes précédés, les Français, d'une réputation d'arrogance, donc profil bas ». Donc, manifestement. Mais cela dit, moi, je pense qu'on fait beaucoup porter à Nathalie Loiseau, parce qu'incontestablement, c'est une bévue énorme. Mais enfin, c'est de toute façon la position de la France. Si la position de la France ou si la position des députés de La République En Marche était meilleure, l'arrogance française, Nathalie Loiseau n'est pas la seule à l'incarner. Il se trouve que Emmanuel Macron est perçu aussi comme ça assez largement par d'autres partenaires européens.
Sauf que Emmanuel Macron a tout de même la légitimité, la carrure intellectuelle et politique.
Ah bah effectivement, les moyens d'être arrogant
Alors, il ne s'agit pas d'être arrogant, mais enfin, il a quand même la légitimité pour faire en sorte d'imprimer la dynamique qui est la sienne. On peut être pour, on peut être contre, mais qui est véritablement de créer un groupe central pour... participer de façon beaucoup plus active que jusqu'à présent, avec le PPE, donc de la droite conservatrice, et avec le Parti Socialiste, face à ce qu'il considère être, lui, comme une menace, on en parlera après, mais en tout cas c'est sa doctrine, en tout cas c'est son credo, et c'est ce sur quoi, contre lequel il se mobilise depuis qu'il est en campagne, c'est-à-dire la poussée des populismes et de l'extrême droite en France et bien sûr en Europe. Donc l'arrogance, il n'est pas question de vous avez raison Jean-Sébastien, d'excuser ou de légitimer l'arrogance, mais en tout cas Nathalie Loiseau n'a aucun poids, enfin autant Emmanuel Macron encore une fois peut l'être, autant Nathalie Loiseau joue effectivement contre son camp.
Et ça, c'est pas du tout.
Ce qui est intéressant maintenant, c'est que ça révèle deux choses. Ça révèle la persistance d'un biais de sélection des dirigeants et des leaders politiques en France, qui est souvent axé sur cette un petit peu homogamie, parce que je pense que si elle n'avait pas son parcours, son diplôme, aux fonctionnaires, etc., elle n'aurait pas été la tête de liste.
Et on disait qu'il fallait, pardonnez-moi, je vous interromps, on vous donne la parole, on disait qu'il fallait pour l'Europe, qui est un sujet très complexe, quelqu'un qui connaisse très très bien le dossier.
Oui, mais au détriment de l'expérience quelquefois, et de la pratique. Et c'est une discussion que j'ai pu avoir par le passé avec Emmanuel Macron lui-même, en lui disant « Attention, je pense qu'il y a un problème chez vous, c'est le biais sociologique. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as la prime à l'énarque, la prime aux diplômés, le prime...
Elle a dirigé l'ENA.
Et j'ai pu travailler avec elle lorsque dans la loi égalité et citoyenneté, on avait voulu modifier un certain nombre de processus de recrutement et le dialogue avec elle avait été très constructif. Mais là, sur ce poste-là, la prime à l'expérience... Et la deuxième leçon, qui elle est bénéfique, j'ai croisé Pascal Canfin ce matin, c'est que libérer et disqualifier quelque part, finalement, malheureusement pour elle, Loiseau de la tête de ce groupe libéral, ALDE, enfin on verra comment on l'appelle, Citizen for Europe, Citoyen pour l'Europe, je ne sais pas.
Renew Europe.
Voilà.
Renew.
Bon, ça maximise les chances d'un Pascal Canfin
Ah non.
D'être président de la commission développement durable, ça on saura demain matin.
Pardon,
voilà,
je croyais qu'il allait dire de la commission
européenne. Est un enjeu immense et concret et précis, peut-être moins politique du point de vue de la tectonique des plaques, mais qui a des conséquences directes, y compris sur les sujets que nous aborderons dans la suite de cette émission.
Oh là là, mais vous faites le lancement pour moi. Quelles conséquences pour la suite? Merci Razia Mehdi, merci Yannick Halimi, merci Jean-Sébastien Ferjou. Non, alors rien. Alors tout de suite, on fourbit nos arguments et on se retrouve ensemble.
(19h37) la suite de notre débat d'actu sur Europe 1 avec vous Philippe Vandel et vos invités, Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, Razia Mehdi, fondateur de New Stank Cities, et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur d'Atlantico.
Nathalie Loiseau et son imprudence bavarde qui briguait la présidence du groupe Renew Europe, ça ne sera pas elle, elle a été contrainte de s'effacer. On a parlé d'elle, mais quelles conséquences pour la suite, Jean-Sébastien Ferjou? Est-ce que la France va perdre de son influence à Bruxelles à cause de cet incident et de cette arrogance éternelle et supposée des Français?
Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas surinvestir cette
incident-là. C'était ma question, justement. Est-ce que c'est qu'un incident ou c'est une catastrophe puisqu'on a insulté les gens avec qui on devait travailler, nous les Français?
Non, mais c'est un incident particulièrement malheureux parce qu'il entre en résonance avec ce qu'on reproche déjà à la France de manière générale, que ce soit sous ce quinquennat ou sous les précédents, et peut-être encore plus particulièrement à Emmanuel Macron. Alors ça peut être aussi pour de mauvaises raisons, Yannick le soulignait, parce qu'il avait une vraie volonté pour l'Europe et une ambition pour l'Europe. Donc ça peut susciter des réactions en face. Mais c'est vrai que là, cette espèce d'arrogance française, puisqu'on a beau proclamer, comme le fait Emmanuel Macron, qu'on est très très européen, nos partenaires ont souvent tendance à entendre dans nos accents très européens un projet très très français. Et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que le projet européen-français, il est avant tout un projet finalement national. Maintenant, pour les enjeux, pour les nominations, oui, il y en a plusieurs. Il y a la présidence de la Commission tout court, pas la Commission du Parlement européen, mais la présidence de la Commission tout court, la présidence du Conseil, et à mon sens, la plus importante, la présidence de la Banque Centrale Européenne, et je ne suis pas certain que ce soit celle sur laquelle on se batte le plus, alors que c'est pourtant ce qui a le plus d'influence sur nos quotidiens à tous, que la Banque Centrale Européenne, c'est elle qui décide de la politique monétaire, qui décide de la politique de l'euro.
Ça ne nous a pas beaucoup gêné que ce soit un Italien qui dirige la Banque Centrale Européenne.
Non, en revanche,
je pense qu'un Français aurait été moins conciliant.
En revanche, ça nous gênerait beaucoup que ce soit M. Weidmann,
dans ce cas-là,
allemand,
oui, on est
qui veut revenir sur les politiques de quantitative easing mises en œuvre, qui ont permis à la zone euro de respirer un peu et finalement de rattraper son retard par rapport au cycle de croissance qui s'était installé partout ailleurs dans le monde, sauf chez nous. Donc revenir sur cette politique-là, parce qu'elle fait peur aux retraités allemands, ce serait particulièrement dangereux.
Ce serait particulièrement dangereux, j'en sais rien, mais je voudrais rebondir sur ce que dit Jean-Sébastien. Moi, oui, je pense que c'est effectivement qu'il va avoir des impacts, et c'est pas seulement anecdotique, la bourde, tout ce que vous voudrez, de la part de Madame Loiseau, parce qu'il y avait cette volonté, encore une fois, de la part d'Emmanuel Macron, mais pas que, de créer ce groupe qui pouvait faire justement contrepoids aux politiques, entre guillemets, libérales et très modernes, monétaristes et orthodoxes, mises en place notamment par l'Allemagne, alors qu'elle influençait très fortement la politique monétaire à travers la BCE, même si ce n'était pas l'Allemagne qui était à la présidence de la BCE. Il y a une volonté de la part d'Emmanuel Macron, à travers ce groupe qu'il veut créer, qu'il veut constituer, qu'il veut homogénéiser, de faire contrepoids et de, construire cette Europe protectrice qu'il appelle de ses voeux, encore une fois, depuis sa campagne. On y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, il l'a affirmé, il l'a réaffirmé encore dans sa lettre aux Européens. Or, si Madame Loiseau continue à battre de l'aile pour faire un très, très mauvais jeu de mots, ne pas oublier tout de même que les élus de ce groupe centriste, qui pour le moment est fait de briques et de broc, tout de même, n'est même pas appuyé par une discipline de groupe. Il n'y a pas de discipline de groupe au sein des groupes de l'Europe, et encore moins à travers ce groupe très hétérogène que va constituer le Renew Renaissance. Donc oui, si la France commence à faire, à cacter et à faire, à créer des perturbations et des comme le fait Madame Loiseau, et à braquer certains de nos alliés potentiels, oui, ça peut avoir des répercussions non seulement sur notre vision de l'Europe, mais sur la construction de l'Europe en général. Mais je termine sur ce que dit Jean-Sébastien. Je ne suis pas tout à fait d'accord, encore une fois, avec cette arrogance dont nous taxerait d'Emmanuel Macron et de la France, dont nous taxerait nos alliés ou les autres pays.
Moi. Je crois que c'était unanime contre
non,
nous.
Non, ce n'est pas unanime. Il suffit de regarder et de lire certains grands journaux européens, qu'ils soient allemands et même italiens, qui ne sont pas nos alliés.
Tout dépend de l'italien. Les journaux centristes italiens, ils sont plutôt avec nous.
Non, mais y compris...
Ce qui compte un petit peu plus en Europe, c'est quand même ceux qui la dirigent et éventuellement leurs citoyens.
S'aligner les 5 étoiles.
Les journaux et les propos rapportés, les propos des dirigeants italiens rapportés dans les journaux italiens, il n'y a aujourd'hui qu'Emmanuel Macron qui incarne ce contrepoids à cette Europe populiste. Angela Merkel est très gênée, elle est un petit peu démonétisée, en plus elle va plus être aux commandes, elle est extrêmement talonnée par l'extrême droite allemande, l'Angleterre n'en parlons pas.
Elle a baissé, pardon, l'extrême droite allemande a reculé, ce sont les Verts qui ont beaucoup progressé.
Oui, mais au sein de son propre parti et de sa majorité nationale, il y a quand même une poussée sur ces dernières années de l'extrême droite allemande. Donc attention, ne nous trompons pas. On peut estimer que Macron est arrogant, mais il est quand même considéré par beaucoup, beaucoup d'États européens comme le seul, aujourd'hui, qui porte, le message d'une Europe, entre guillemets, démocratique.
Qui continue à vivre parce qu'elle se donne les moyens de vivre. C'est-à-dire qu'elle devient lisible, avec une orientation politique aussi assumée, que ce soit sur les questions environnementales, sur la question budgétaire, en essayant de comprendre aussi l'idée qu'il y a un consensus et à produire pour réussir à poser un dispositif. Parce que là, présidence de Renew Europe ou pas Renew Europe, ce groupe dont on parle. Quel que soit le résultat, il se passe quoi là, en ce moment-là, à l'heure où nous on est dans ce studio, et où demain des premières réunions à Bruxelles se tiennent pour définir les priorités des uns et des autres. C'est que on est en train, il y a la droite, le PPE, les sociaux-démocrates français, on leur demande pas trop leur avis en ce moment, d'après ce qui me revient, les Verts. Je ne sais pas s'ils resteront au bout du dispositif. On peut les soupçonner de faire monter la mayonnaise, dire on veut ça, et à la fin sortir. Bon.
Les Verts sont quatrième.
Et les libéraux.
Et les Verts.
Oui, tout à fait. Et il n'y avait pas d'ordonnancement, mais vous faites bien de le rappeler. Donc ces quatre-là disent, on va définir 5-6 points qui font qu'on peut accoucher rapidement d'un dispositif global. Ce dispositif global, c'est ce qui était dit tout à l'heure, c'est la présidence de la BCE, la présidence de la Commission, la présidence du Parlement européen. Et j'ajoute à cela...
Le ministère la Commission des Affaires étrangères, qui est l'équivalent du Quai d'Orsay européen.
Vous avez tout à fait raison. Mais, même si son poids est depuis Ashton plus que relativisé. Ce qu'il convient de dire aussi, c'est que la main, elle reste aussi dans les gouvernements. Parce que c'est quand même l'intergouvernemental qui décide, là où la démocratie disparaît devant la diplomatie, de ce qui est acceptable ou non. Par exemple, je peux dire, et vous pouvez tous être d'accord avec moi, je le crois, sans avancer trop de certitude, qu'il ne sera pas possible, bévu de l'oiseau ou pas bévu de l'oiseau, que la France n'ait aucun de ces quatre postes, par exemple. Ensuite, là où il y a des conséquences, c'est que dans la mécanique européenne, où le poids de la France a été très relativisé et affaibli, dans le détail, lorsqu'il faut être en commission, lorsqu'il faut peser sur l'ordre du jour, le rôle du président de groupe est très important. Le rôle du président de commission est très important. Parce que, à un moment donné, eh bien, l'expertise, la présence, la nécessité d'être présent...
Mais là,
pour le coup, il y a quand même des gens sur la liste, en tout cas, qui étaient celles d'En Marche aux européennes, qui ont quand même un petit peu du répondant derrière l'oiseau sur ces questions-là, qui connaissent bien le Parlement européen, donc est-ce que ça suffira ?
Ma dernière question triviale, il reste une minute pour cette deuxième partie, je vais la poser à Jean-Sébastien Ferjou. Les postes de président sont très importants, est-ce que la France a perdu des points à cause de cette bévue ou non ? Ou pas du tout, c'est inchangé ?
Je vous dis, ça entre en résonance avec autre chose, un rapport de force plus large, parce que je ne vois pas quels sont les États dont
je vais
parler.
Est-ce que le rapport de force est en notre défaveur ?
Une phrase, on perd la présidence du nouveau groupe qui serait créé. Paradoxalement, ça peut donner plus d'arguments et de chances pour obtenir la présidence d'une commission thématique qui, de mon point de vue, pour les Français, il vaut mieux présider une commission développement durable que le groupe politique.
Parce que les gens souvent ne mesurent pas l'importance de la Banque Centrale Européenne. En 2009, quand Jean-Claude Trichet, pour le coup c'était un Français, donc comme quoi il n'y a pas que les critères de nationalité, quand Jean-Claude Trichet a cru que l'inflation était en train de remonter, qu'il a remonté les taux, c'est ça qui a fait que nous avons rechuté dans la récession, c'est ça qui a fait qu'il y a des millions de chômeurs de longue durée en France et en Europe notamment, parce que quand on compare par rapport au niveau de chômage dans d'autres pays qui ont fait des choix de politique monétaire différents, il a fallu attendre Mario Draghi qui arrive justement en mettant en œuvre ces politiques de quantitative easing qui ne vont pas sans inconvénient, parce que ça ne marche, ou en tout cas elles n'atteignent leur efficacité maximum que si les États, par ailleurs, eux, font des efforts en matière de réformes structurelles. Mais donc c'est quand même crucial, de tous les postes, le plus important est réellement celui-là.
Jean-Sébastien, n'a jamais été question que la France ait le poste de la BCE aujourd'hui. Et je suis d'accord avec vous, c'est un poste central et névralgique, mais en sens inverse.
C'est
pas pour minimiser ce que vous dites, hein. Mais en sens inverse, heureusement que la BCE était là depuis la crise financière de 2008 et de 2010 pour mettre des liquidités sur le marché et faire baisser
Mais et c'est faire baisser les taux d'intérêt. Ce que je vous dis. Sauf que quand vous avez en face des Allemands qui, eux, sont dans une vision qui ne les incite pas à vouloir faire ces efforts-là, c'est là où ça peut se révéler
fragile. Vous savez
que
le vice-président de la BCE est allemand et que rarement les décisions de la BCE sont appliquées sans l'accord de ce vice-président.
Vous savez quoi ?
Mario Draghi a quand même forcé la main de l'Allemagne.
Il faudrait qu'on se mette tous d'accord sur des séquences et des horaires à respecter parce qu'on n'a encore pas parlé.
C'est comme au Parlement européen, Philippe.
ADP, restez avec nous sur Europe pour tout vous dire. Auditeur, auditrice, j'adore quand c'est chaud comme ça et quand j'arrive pas à en placer une. A tout de suite.
Jusqu'à 20h, il nous reste 10 minutes. C'est votre grand journal du soir. Dernière partie de notre débat d'actu sur Europe 1 avec vous, Philippe Vandel et vos invités. Ils sont avec nous ce soir. Jean-Sébastien Ferjou, fondateur d'Atlantico. Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Et Razi Hamadi, fondateur de New Stank Cities.
Jeudi, le ministère de l'Intérieur a ouvert un site web pour collecter les soutiens au premier référendum d'initiative partagée de l'histoire. L'objet, retoquer ou non la privatisation annoncée d'ADP à Aéroports de Paris grâce à une loi à venir en cas de succès du oui au référendum. Mais d'abord, il faut l'accord de 10% du corps électoral, soit pas moins de 4 700 000 signatures. Et le site web conçu ad hoc reçoit, pas conçu ad hoc, j'en vais voir, reçoit une pluie de critiques au point que certains se demandent, ça va du RN à la France Insoumise, en passant par le PS, le PC ou les Républicains, si le gouvernement ne fait pas exprès, avant que je vous demande ce que vous en pensez, ce que vous en dites, est-ce que vous avez testé l'appli Razi Hamadi ?
Moi, je l'ai testé juste parce que c'était le sujet aujourd'hui.
D'accord.
Donc, je voulais vérifier qu'en effet, il y avait...
Et alors, ça y est, vous êtes inscrit ?
Alors, j'étais à l'étranger ce matin.
Ouais.
Très tôt ce matin. J'avais un petit peu des difficultés avec le routeur. Je pense que c'est une question de serveur, etc. Mais sur le taxi qui m'a ramené ici, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, sachant que mon intention n'était pas
donc
de trancher ce débat avec moi-même, de savoir si je voulais ou pas. Mais bon, après, je suis un peu au fait de ces questions-là. Je pense qu'il y a des paramétrages, des questions de serveur, délai d'attente. Par contre, là où ça a été plus problématique, c'est qu'apparemment, il y a des listings qui ont été rendus publics. C'est-à-dire que, voilà. Bon,
c'est encore complexe, mais on va
ce
sujet directement.
Après. Ça sera le cas après.
Non, mais c'est que normalement, le listing doit être rendu public, parce que ça ne préjuge pas de votre vote, mais ça dit vous avez souhaité que ce vote soit rendu public. Sur cette question, est-ce que vous trouvez ça normal, démocratique, que votre nom apparaisse si vous demandez à ce que ce vote soit mis en œuvre ? Jean-Sébastien.
Mais il apparaît aujourd'hui en démocratie. Quand vous allez voter la liste électorale, vous pouvez la demander ?
Oui, mais on ne la voit pas sur un site internet.
On ne sait pas pour qui vous votez. Or là, si vous
vous inscrivez...
On ne saura pas. Vous pouvez tout à fait vous inscrire pour ensuite aller voter non.
Ah oui, pour inscrire, pour voter non.
Pour aller voter non. Ça permet de vérifier. Enfin, je ne vois pas tellement où est le sujet.
Non, parce qu'il y en a qui s'en sont émus. Par exemple, Raquel Garrido, que je recevais ici, de la France Insoumise.
Ah, mais il fallait qu'elle lise le texte de loi, quoi. Enfin, je veux dire, sinon, il ne fallait pas le demander et signer la pétition qui demandait à ce que autant de.
A priori, quand on signe une pétition, on met son nom. Mais...
D'autres questions, je vais vous dire. Avant-hier, c'est le journaliste Daniel Schneiderman qui a essayé de s'inscrire sur le site du fameux site Arrêt sur Image qui dénonce jour après jour. Le site du référendum ADP, se montre un scandale démocratique.
C'est un site qui a été développé bien avant. Il ne vient pas d'être développé spécifiquement pour cette occasion-là. Ça a été développé il y a déjà plusieurs années. Donc, si bug il y a, je pense que c'est un peu, pour le coup, étonnant de l'attribuer au gouvernement actuel. Et puis, il y a quand même 12 mois, il me semble, pour pouvoir...
9 mois. Et il faudrait 17 000 signatures par jour pour arriver au terme de ces 9 mois
c'est une autre question.
À 4 700 000.
Oui, mais ça, c'est une autre question. La question est, est-ce que le seuil de 10% du corps électoral est réaliste pour donner l'impression que...
À la suite des gilets jaunes et à la suite du grand débat, il y a Emmanuel Macron qui a décidé non pas de mettre en place, réformer, non pas en mettant en place le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne, mais en rendant les gilets jaunes, mais en rendant plus accessible. Ce fameux celui-ci. Référendum d'initiative partagée.
Je supposais qu'il y a une réforme constitutionnelle.
Voulu par Nicolas Sarkozy, et notamment, de mémoire, en abaissant le seuil des 4,7 millions
à. Ce qui ne nécessite pas de réforme constitutionnelle.
Un million. Mais attendez,
on écoute Jeannick Halimi.
Okay. Bon, je vais rien dire d'extraordinaire.
Non, parce que les cas sont dissipés, sinon, si je ne fais pas la police ici, je suis le castaner de ce plateau.
Non, mais au-delà des bugs.
Alors, on va s'en donner.
Protège tes yeux.
Messieurs, au-delà des bugs, moi je trouve qu'il y a un vrai problème démocratique, pour employer un grand mot, sur les conséquences de ce RIP. C'est-à-dire que voilà une loi, une disposition qui était intégrée dans une fameuse loi PACTE qui devait être votée à X plus 1, c'est-à-dire le lendemain où les partis de droite comme de gauche, dans un grand élan d'union des oppositions, ont décidé donc de lancer la procédure du RIP. Quel que soit le dénouement de ces RIP, parce qu'il faut le rappeler, hein, il n'est pas sûr que la privatisation d'Aéroports de Paris, bien sûr, soit définitivement enterrée.
Exactement.
Il y a encore une étape, il faut... D'abord, pour qu'il y ait le référendum, pour faire court, hein, il faut qu'une des deux chambres, d'ici à 9 mois, puisque c'est un délai irréfragable, hein, même si les 4,7 millions de signatures sont recueillies avant ce délai, il faut quand même que ce délai aille à son terme. Il faudrait, pour qu'il y ait référendum, que l'une des deux chambres, ou les deux chambres, décide de ne pas examiner le texte. C'est-à-dire que si le Sénat, l'Assemblée nationale, décide d'examiner le texte, et même s'il le rejette, il n'y aura pas de référendum. Donc voilà, il y a énormément de variables avant que le rejet d'ADP soit éventuellement acté par ce référendum, mais il n'empêche que cette privatisation qui devait donc être votée définitivement il y a quelques semaines, hein, eh bien, pour le moment, est bloquée, si on a fait nos calculs, jusqu'en avril ou octobre 2020.
Mais vous n'avez pas répondu.
Je veux dire par là qu'il y a un frein à la procédure législative démocratique qui, moi, me choque.
Mais alors, vous avez perdu ma question. Est-ce que, comme l'opposition, vous avez la sensation que le gouvernement, l'exécutif freine des quatre fers? Vous avez dit que le site remontait au calendrier grec, Jean-Sébastien Farjou. Est-ce qu'ils font exprès de ne pas le mettre à jour pour justement... Vous êtes unanimes tous les trois dans ce sens. Je vous le reproche pas.
Non, je crois, parce que même, pardonnez-moi, la plateforme existe, c'est la première fois tout de même qu'a lieu véritablement cet exercice. Et puis, il y a encore 9 mois. De toute façon, comme je vous le disais, il y a un délai irréfragable de 9 mois. Les bugs sont des bugs. Et politiquement, le gouvernement, ça se saurait s'il y avait de l'obstruction de sa part. Et en plus, c'est soumis, au contrôle du Conseil constitutionnel. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait volonté délibérée.
Parce que je pense qu'il y a quand même, en plus, il y a des prestataires
dans
ces domaines. Donc ça voudrait dire qu'il y a un ordre donné au prestataire qui va entacher sa réputation, chose qu'on pourra vérifier. Enfin, bon, j'imagine pas ça. Maintenant, en effet, il y a plusieurs mois, c'est le jeu de l'opposition que de dire le site il marche pas, c'est pas normal, vous êtes pas à la hauteur, etc. En même temps, on aurait pu aussi anticiper, sachant qu'on allait être attaqué là-dessus lorsqu'on est au gouvernement. Maintenant, sur le fond.
D'un mot,
sur
parce
le fond,
on a fini.
Je me rappelle, on avait lancé la votation citoyenne sur la Poste. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on sait que légalement, institutionnellement, d'un point de vue des conséquences réglementaires, ça n'aura pas grand-chose. Mais c'est un support politique. Et c'est de ce point de vue-là que le débat mérite d'être porté. Parce que j'ai l'impression que là, maintenant, l'opposition, pendant 7 mois, parce qu'avec 17 000 pétitions à récupérer chaque jour, ils vont faire que ça. Et par exemple, pour le PS, il se rappellera pas que c'est lui qui a privatisé Lyon, Nice et Toulouse.
D'un mot, Jean-Sébastien Farjou, le mot de la fin, vous avez 15 secondes, vous qui tenez un site qui marche bien, Atlantico, qui ne fait pas de bug. Merci de ce mot. C'était Jean-Sébastien Farjou, le fondateur d'Atlantico. Razi Hamadi, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le fondateur de New Tank City, ancien porte-parole et député PS. Aubergine. Et Jeannie Calimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant sur Europe, on va retrouver Europe 1 Sport avec Lionel Rosso. Salut Lionel, c'était sportif ce soir.
Salut Philippe, mais comme toujours, comme tous les week-ends, mais tant mieux.
Alors au programme ce soir chez
Copa América, foot, l'Argentine, le Brésil, en difficulté pour l'Argentine, et puis l'actualité mercato, les transferts et notamment l'arrivée de Leonardo au Paris Saint-Germain.
Merci beaucoup Lionel. Nous, samedi prochain, je ne serai pas là à 18h. Je vais vous dire pourquoi. Je serai au Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet où je serai, cet honneur, le speaker officiel. Vous retrouverez François Claus. Moi, je vous retrouve le lundi d'après. Et Marlène sera là. Bonne semaine à tous et toutes. Bonne soirée sur Europe 1.